Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de juin, émission particulière puisque comme d'habitude en juin on reçoit des invités. Alors on a un seul co-animateur pour l'instant, on devrait en avoir un deuxième d'ici quelques minutes on espère hein, puisque c'est notre... Alors d'habitude c'est pas lui qui est le plus en retard. On va dire que c'est celui qui est là ce soir. Habituellement, c'est lui qui est un petit peu plus en retard dans les enregistrements. Là, il est très assidu, donc on va tout de suite le présenter. Bonjour Morgane, comment vas-tu?
Bonjour Deka, ça va super. Depuis que je suis passé le voir, je suis devenu propriétaire d'un crédit de 160 000 balles. Et voilà.
Bon bah, donc, félicitations.
Dans la vie. Voilà. Je vais peut-être enfin avoir une connexion internet.
Voilà, maintenant c'est ton nouveau projet, avoir une bonne connexion internet.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu bois un petit apéro, Morgane?
Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il faut aller le chercher maintenant ou on présente,
Alors, tu le présentes et tu le buveras après, on en parlera entre deux, hein, t'inquiète pas. C'est juste pour le présenter. Comme c'est une émission un peu exceptionnelle, vous allez voir, le ton va être un peu moins à la déconnade, puisque on a des invités qui ont beaucoup de choses à dire. Et en plus, ils ont plein de projets à nous présenter, donc on va leur laisser principalement l'invitation. Donc, je te laisse juste présenter ton petit apéro rapidement, et je présenterai le mien, et ensuite on présentera nos invités dans la foulée. Allez, Morgane, je ne l'entends plus parce que bien sûr, on est. Oui, n'oublie pas de réactiver le micro. Oh, c'est un bruit qui me plaît ça.
Voilà, donc écoutez ça un petit peu.
Déjà, c'est une bouteille en verre.
Et ça a moussé partout. Voilà pourquoi je préfère les canettes. Alors, cette bière, c'est une Thomas Beckett.
Oui.
Alors, vous ne connaissez probablement pas. Alors, comme la mode est de mettre en avant les produits régionaux, moi, je vais aller à contre-pied, je vais mettre en avant une bière de Bourgogne, cette belle région de Bourgogne et son terroir.
Bourgogne-Franche-Comté.
Et nous voici donc avec une...
Et elle s'appelle
brune.
Thomas Beckett, oui. Et ça vient de Bourgogne.
Ouais. Bah oui, c'est en anglais. Ouais, je sais. Bah... Je crois qu'il y a un truc avec l'histoire qui revient.
Bon. Ah, d'accord.
Alors par contre, la description, elle est jolie, donc je vais la lire. Mm-hmm. La Thomas Beckett brune est élaborée selon les méthodes traditionnelles de haute fermentation. Refermentée au miel de Lyon, elle repose naturellement... sur sa lie de levure. Très facile à déguster, elle vous surprendra par sa rondeur, son caractère affirmé et ses arômes puissants. Et elle est à 6,8.
Tu devrais être voix off pour un podcast sur la bière, Morgan.
Franchement, ils ont le sens. Bon, on va goûter ça.
Ouais. Bon, on va tout de suite enchaîner sur nos invités. Alors, comme je disais, émission exceptionnelle, invité de prestige. Donc, on va tout de suite commencer par celui qui va intervenir un petit peu plus tard au cours de l'émission parce que il y a beaucoup de choses à présenter et dont ce que Patrick va nous présenter. Donc, bonjour Patrick, comment vas-tu?
Bonjour Deka, ben je vais bien et merci de m'avoir invité pour cette belle émission.
Alors tout de suite belle émission, tu vois, je vais nous caresser dans le sens du poil, tu vois, ça c'est très gentil. Et elle sera peut-être belle qu'à la fin de l'enregistrement. Hein.
C'est pas le même Patrick qu'on a l'habitude, c'est pas le Patrick.
Oui, parce que c'est vrai que on a eu un homonyme, il avait pas tout à fait le même accent que toi et il venait d'un petit peu plus loin. Puisqu'on a eu un Patrick qui était du Canada. Et qui, alors peut-être que tu connaissais, il animait le podcast Blog Linux.
Non, ça me dit rien.
Alors, bloglinux.ca, plus gros podcast francophone autour de Linux, qui s'est arrêté en janvier dernier, malheureusement, après plus de 8 années de bons et loyaux services. Donc, on a eu le plaisir de les recevoir. Bon, après, si vous voulez vous y mettre dans la communauté des manchots et des linuxiens, n'hésitez pas. Vous allez vous, même si c'est un petit peu en décalé, parce que c'est des émissions un peu anciennes, il y a toujours du super contenu. Donc, même si vous voulez vous les refaire... Il y a sept ou huit saisons à vous faire. Il doit y avoir à peu près 48 heures d'écoute. Donc, si vous voulez du contenu de qualité, n'hésitez pas à les écouter. Voilà, on les a encore félicités. Alors, rapidement, Patrick, pourquoi nous t'avons invité? Parce que tu présentes une distribution Linux et tu fais partie d'un collectif. Alors, on va juste présenter globalement. Est-ce que tu peux nous faire juste une petite synthèse en quelques secondes du projet que tu représentes ce soir?
Alors oui, bien sûr. Donc, je suis Patrick du collectif Emabuntus. C'est un projet qui a été mis en place pour développer une distribution Linux du même nom, Emabuntus, que l'on a commencé en 2011, voilà, pour aider les Emmaüs à reconditionner des ordinateurs. Voilà.
Très bien. En plus, tu ménages le suspense. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur notre deuxième invité de la soirée. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'hésites pas hein, si tu as des questions ou des interrogations entre deux, parce que on va plus parler avec cet invité dans un premier temps. Il nous vient de Vendée. Alors on peut le dire. D'après ce que j'ai compris, c'est l'invité le plus expérimenté que nous aurons eu depuis toutes les saisons de l'apéro des papas manchots. Mais expérimenté veut dire grand savoir. Donc bonsoir Claude, comment vas-tu?
Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce titre d'expérimentation. Je vais bien. Je vais bien, merci.
Alors, on va tout de suite. Alors, j'ai oublié de demander à Patrick s'il avait quelque chose à nous présenter au niveau boisson.
Sûrement.
Alors Patrick, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter ou est-ce que tu es sobre ce soir?
Non, je ne suis pas sobre, je me suis mis au diapason. Ah. Par contre, contrairement à vous, je n'ai pas pris de bière, parce que moi je viens d'une région où il n'y a pas de bière, et donc j'ai pris un vin cuit qui s'appelle un Mori, que Claude connaît très bien. Donc,
excellent produit.
Voilà, un excellent alors attends, le mot, et ça serait pas de champagne Ardennes?
Ah non, pas du tout, c'est du Languedoc-Roussillon.
Ah bon, d'accord.
Le vin cuit, c'est un peu comme l'hydromel? Non, pas l'hydromel, comme l'hypocras?
Non, pas du tout, ça ressemble à du muscat, c'est ce qu'on appelle un vin doux naturel. Donc c'est un vin dans lequel on rajoute des épices et il fait 16 degrés, donc ça se boit en apéritif ou en dessert.
Et c'est marrant Patrick, parce qu'au début j'avais pas remarqué l'accent, et maintenant que tu parles de ta région d'origine, l'accent remonte naturellement. Tu vois, ça reprétit dans les
possible.
Oreilles, tu vois.
C'est possible.
Ça commence à sentir on commence à entendre presque, on entendrait presque les cigales.
Ça vient peut-être du Mori.
Voilà, peut-être, ça fait revenir l'accent. Bon, on va revenir sur Claude. Alors Claude, avant que Patrick revienne un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter pourquoi tu es venu ce soir et les différents projets que tu représentes?
Ah, pourquoi je suis venu ce soir? Bon, la première des bonnes raisons, c'est parce que Patrick me l'a demandé. Ça, c'était la première raison. Et puis, je représente à moi-même une association qui, depuis 2011, œuvre sur le Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest.
Situer où ça se, où, en Afrique de l'Ouest, entre quel et quel pays?
Alors, c'est au bord du golfe du Bénin. Et c'est coincé entre le Ghana et le Bénin, et puis juste au sud du Burkina Faso.
Donc pays francophone.
Pays francophone, voilà.
D'accord. Hein? D'accord.
Et puis ça fera l'occasion de la soirée, mais on a eu à se rencontrer avec Patrick et puis à faire des projets en commun, des projets humanitaires.
Comment, Morgane?
Ils sont vraiment francophones là-bas?
Oui. Oui, ils sont vraiment francophones.
Et l'état du français, genre ils le parlent bien ou c'est genre ils savent, c'est les mots ils savent pour le commerce?
Non, ils le parlent bien. Bon, ça reste un français scolaire. Ça reste un français scolaire parce que leur langue entre eux, la plus courante, c'est la langue maternelle, c'est les dialectes. Et le français bien souvent ne leur sert même qu'à parler entre tribus et dialectes différents. Ils emploient le français comme ça, ils comprennent. Mais c'est un français qui n'est pas très élaboré. Et pour avoir un avis, une idée ou un point de vue, il faut poser quelques questions, quoi. C'est simplifié, voilà.
D'accord. Alors, Claude.
Mais il y a des Togolais qui font des très belles études et qui sont professeurs de français et qui y vont. Hein. Là, moi, je parle du Togolais dans la brousse. Hein.
Mmh. Et il y a eu des très bons footballeurs aussi. Il y a eu Adekambi Oulufadé notamment. Donc oula, peu de gens doivent se souvenir de lui, mais voilà, il a marqué un but en Ligue des Champions. Donc quelques petits souvenirs. Alors Claude, tout d'abord, comment tu es arrivé à te lancer dans un projet au Togo? Parce que c'est, je suppose que tu as comment expliquer? Comment ça t'est arrivé de dire voilà, du jour au lendemain, je vais lancer. Est-ce que tu avais des attaches là-bas? Est-ce que tu avais des contacts ou autre?
Bon, je vais essayer de faire court, mais ça va pas être facile. Mais allez, je me concentre pour essayer de faire court.
D'accord.
Bon, elle est pas là, elle m'entend pas, mais elle a l'habitude de l'entendre et Patrick le sait. C'est de la faute à mon épouse.
C'est une bonne raison.
Ouais, j'ai beaucoup de plaisir à dire que c'est de sa faute. Non, c'est grâce à elle. Hein. Mon épouse avait une tante qui est aujourd'hui décédée, qui était partie de 74 à 85, 1900, 74 à 85, au Togo, a accompagné son frère qui était missionnaire, hein, religieux, quoi, missionnaire. Et comme elle était elle-même célibataire, elle s'est dit, tiens, c'est l'opportunité, je vais suivre mon frangin qui part en mission au Togo. Et puis donc, elle est partie vivre là-bas 9 ans. Mais très vite, elle s'est ennuyée, quoi, compte tenu que le système ecclésiastique faisait que c'est toujours les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et elle a été amenée à rencontrer des enfants handicapés, et puis elle a démarré de bric-à-brac à en équiper certains pour les aider à aller à l'école, à s'occuper d'eux et tout. Et les mamans du Togo, voyant cette petite Française, parce que c'était un petit bout de chou, quoi, voyant cette petite Française très dynamique, a dit, tiens, elle a des idées, on va aider. Et puis, comme ils le disent avec beaucoup d'humour, la petite graine qu'elle a plantée est devenue un grand baobab. Et donc, on a eu l'opportunité en 2011 d'aller au Togo. Et donc, mon épouse s'est dit, mais j'ai une tante qui est au Togo, il serait bien qu'on aille voir... qu'on aille voir ce qu'elle a fait là-bas. Et donc on est monté au nord du Togo. Ça aurait tout aussi bien pu ne plus exister, mais quand on est arrivé là-bas, le petit centre qu'elle avait démarré était devenu un bel établissement, quoi.
Et tu n'étais pas au courant, en fait. Parce que c'est vrai qu'entre 85 et 2011, il y a quand même un sacré delta de temps qui s'est passé, presque 25 ans, et toi, comme ton épouse, vous aviez pas de nouvelles du centre.
Non, aucune nouvelle du centre. Hein, il y avait simplement l'opportunité d'aller au Togo et que mon épouse se soit souvenue qu'elle avait une tante qui y avait séjourné. Voilà, c'est simplement ça le lien. Donc on s'est reconnecté quand on a vu les réalités là-bas. On est rentré avec la ferme intention de monter une association qui perdure depuis et qui fait du bon boulot, on est fiers de nous.
D'accord, donc en fait, c'est un projet qui a été parallèle à celui de la tante de ta femme.
C'est ça.
Et qui a été compliqué, devenu complémentaire.
Voilà, c'est ça. Hein, on s'est engagé vis-à-vis des enfants handicapés à soutenir d'abord un centre, hein, qui est de religieux, hein. Mmh. et puis après ça a fait boule de neige, quoi. Après on a aidé dans le domaine de l'éducation. Mon épouse, qui a une fibre très féministe, aide aussi à un groupement de femmes leaders, hein, qui s'entraident pour sortir de la pauvreté des ménages. Et de fil en aiguille, on en est arrivé aujourd'hui à monter des projets assez conséquents quand même.
Alors quand tu disais que la petite graine est devenue un baobab, est-ce que tu peux donner quelques chiffres au niveau de l'infrastructure du centre, combien il y a d'enfants accueillis, etc.
Oh ben en interne, parce qu'ils pratiquent le pensionnat, parce que le gros problème c'est l'éducation. Même un enfant handicapé doit être éduqué, hein, sinon ça reste un légume à la merci de tout le monde et n'importe qui. Donc le premier critère de prise en charge, c'est quand ces enfants qui ont des difficultés à marcher sont trop loin d'une école. Bon, ben ils sont placés en internat parce qu'il y a des écoles. Patrick qui est venu, il connaît. Les écoles sont très proches du centre. Et puis il y a un véhicule qui les emmène à l'école, donc ça garantit pour l'enfant handicapé qui puisse être scolarisé.
D'accord, donc l'école n'est pas physiquement dans le centre, c'est juste un point d'accueil, après ils sont...
C'est dans le village, tout ça Tout ça, ça se passe à Bomboaka. Donc, il y a le centre, et puis à côté, il y a un lycée, un collège-lycée, et de l'autre côté, il y a une école primaire. Hein? Donc ça, c'est le premier critère de choix pour que les enfants soient en pensionnat. Alors, en pensionnat, ce qu'on appelle au petit Lingo, il y a une cinquantaine d'enfants, hein, jusqu'à 12-13 ans. Et après, il y a, une fois qu'ils sont ados, ils vont dans un foyer qui est toujours dans la même enceinte. Et là, les ados se prennent en charge, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui pourvoient leurs besoins alimentaires, vestimentaires, c'est eux qui font leur lessive et tout. Hein. C'est vraiment un lieu où on apprend aux gens à se prendre en charge rapidement. De toute façon, en Afrique, il n'y a pas le choix.
Quand tu veux dire qu'ils veulent se prendre en charge, j'ai du mal à comprendre parce que tu dis leurs besoins vestimentaires, tout ça. Ils doivent gagner de l'argent ou c'est juste qu'on leur donne une bourse et puis ils doivent se débrouiller avec?
Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils sont hébergés au centre, mais il y a pas de personnel, quoi. Il y a pas de serveuse, il y a pas de cuisinière, il y a pas de lingère et tout. Donc ces enfants, quand ils sont ados, ils sont dans le centre, c'est qu'ils y étaient déjà depuis qu'ils étaient jeunes, et ils ont gardé l'autonomie de savoir se faire à manger, de savoir nettoyer son linge, de savoir même bien souvent parfois entretenir son fauteuil roulant ou des choses comme ça, quoi. Ils sont très autonomes.
Oui. Et bien, alors après, je suppose qu'il y a quand même malheureusement quelques exceptions selon le degré d'handicap.
Ah ben, il y a des grosses exceptions. Il y a des handicapés au petit Cotolingo qui ne connaîtront pas jamais aucune autre vie que celle du centre où ils sont. C'est des polyhandicapés qui ont vraiment des pathologies. Il y en a qui tiennent même pas debout. Enfin bref, quoi. Il y en a qui n'ont pas d'autre avenir que de mourir dans le centre. On le sait très bien.
Justement, bon, on va essayer de rester sur une note un peu plus positive. Quand tu dis justement, bon, je suppose que depuis le temps, il y a quand même eu un certain nombre d'enfants qui sont allés dans le centre. Et est-ce qu'il y a un suivi derrière, voir s'ils ont réussi à avoir un petit projet professionnel ou...
Oui, bien sûr, c'est ça qui est positif, quoi. Bon, déjà, quand ils viennent à quitter le centre, il y a le suivi qui perdure jusqu'à un certain point, bien sûr. Hein. Il y a donc une cinquantaine de jeunes enfants, il y a une vingtaine, 25 adolescents, mais il y a des centaines d'enfants qui sont passés par le centre, qui sont à l'extérieur, qui ont réintégré leur famille ou des lieux d'études ou d'apprentissage et qui sont toujours suivis par le centre. Donc, je cale.
Si je ne remets pas mon micro, ça va être compliqué. Voilà. Donc, ouais. En plus, j'avais une conversation avec Morgan qui voulait poser une question, mais qui n'osait pas. Bon. Donc là, on est à 2011, reprise en parallèle de la création d'une nouvelle association pour aider le centre. Et quelles ont été vos premières actions à lancer depuis le 2011?
Alors depuis 2011, bon, c'était beaucoup du parrainage, nous, hein. On sert d'intermédiaire pour parrainer des enfants, c'est-à-dire, bon, c'est des parrainages qui sont mutualisés, hein. Il va de soi que quelqu'un qui parraine un enfant au centre d'Honorion, l'enfant en question n'aura pas double ration de nourriture sous peut-être qu'il est parrainé vis-à-vis d'un enfant qui n'y est pas, ça évidemment. Hein. Mais sous le biais du parrainage, on se substitue, le parrain ou la marraine de l'enfant se substitue un peu à la famille biologique qui est beaucoup trop pauvre pour payer à sa juste valeur les soins ou tout ce que le centre fait pour l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des parrainages et ça les aide énormément.
D'accord. Et justement, comme tu disais, parrainage, si on devait calculer le budget pour un enfant par mois, alors la moyenne, ça serait combien?
Nous, le parrainage, c'est 22 euros par mois.
D'accord.
Quelqu'un qui veut parrainer un enfant, c'est 22 euros par mois. Et pour comprendre rapidement, il faut savoir qu'aujourd'hui, le SMIG au Togo, il est à 56 euros par mois.
Ah oui, donc une famille ne peut pas subvenir.
Ben oui.
C'est gigantesque comme budget.
Voilà.
Et 22 euros par mois, il se passe quoi avec l'enfant? Enfin, je veux dire, c'est suffisant comme parrainage ou il faut deux, trois parrainages pour vraiment s'en sortir?
Non, 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 un parrainage par enfant, 22 euros par mois. On demande aux gens qui veulent s'engager pour, on demande aux gens qui veulent s'engager pour aider d'essayer de tenir 3 ans, quoi, parce que c'est le parrainage, il y a un programme sur l'enfant, il y a des buts à atteindre, il y a des objectifs à atteindre. Donc, voilà.
D'accord.
Donc ça, pour en revenir à la question, ça a été depuis le début notre fer de lance et ça l'est encore aujourd'hui. Ça, c'est un aspect qu'on entretient, le parrainage, et qu'on réactive.
Et que malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que je suppose que même au niveau étatique là-bas, ils ont pas les moyens de vous aider plus.
Non, non, non. Non, non, les moyens en santé sont dérisoires là-bas.
Voilà, donc
c'est vraiment dérisoire, quoi. Et puis les raisons pour lesquelles il y a tant d'enfants handicapés, elles sont vraiment multiples, quoi. C'est des raisons de malnutrition de la maman pendant la grossesse. C'est des raisons de morsures de certains serpents. C'est des cumuls de raisons parfois qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants handicapés dans ces contrées.
Comment ça se passe si j'ai envie de parrainer un enfant? Qu'est-ce que je fasse?
Ben, il faut contacter notre association, moi entre autres, hein, moi ou des membres de l'association, et puis on met en place un virement. Moi, je préviens l'organisme là-bas. On a l'identité de l'enfant qui va être aidé, et puis une ou deux fois par même on s'efforce 3 fois même, on donne des nouvelles, quoi, pour savoir l'évolution de l'enfant.
Okay, d'accord. Donc moi je suis quelqu'un lambda, je vais sur le site Emabuntus, sur votre site je trouve un
lien. Non, c'est Yovo Togo.
Sur le site Yovo Togo. Ouais. Sur l'excellent site Yovo Togo, non je déconne parce que...
Pardon.
Ouais, c'est parce que, comment dire, je déconne parce qu'il vient d'être fait là. Hein, et on vient de le refaire. Je parle un peu plus lentement, j'allais le mettre en dessous.
N'hésite pas à le mettre dans les notes de l'émission.
Voilà, c'est fait en dessous.
Super.
Hein, voilà. Donc oui, voilà, et c'est très simple, quoi. C'est très simple. Et ça aide énormément, quoi. De plus, on est un peu sorti du cadre du centre et on aide aussi grâce à 2 associations d'handicapés qui sont plus laïques, parce que le centre, il est religieux. Ouais. Et les 2 associations d'handicapés sont laïques. Et la particularité de ces associations, c'est que en grande partie, les membres de cette association sont des handicapés qui, pour la plupart, sortent du centre également, quoi. Donc il y a une entraide collective pour que les enfants puissent être soutenus dans leur
La boucle est bouclée, en fait. Ils ont été aidés et maintenant ils aident.
Voilà. Hein, ouais. Pour certains, il y en a beaucoup qui s'efforcent à ça. D'ailleurs, nous, bon, je vais tous les ans depuis 2011 avec mon épouse, on va au Togo tous les ans, et on en connaît même qui ont été aidés par la tante de Marie-Paul en 75, quoi, de 75 à 84. Et il y en a qui est le secrétaire caissier du centre, un autre il est orthoprothésiste. Et donc c'est vraiment
ils ont réussi à faire un parcours qui est quand même intéressant.
Exactement, on en connaît qui sont à Lomé à la capitale et il y en a un qui a un cabinet d'avocat. Il y en a un autre qui s'est tourné vers les arts et qui est sculpteur, il fait des statuettes pour les touristes à Dapaon. Enfin, on en connaît beaucoup qui grâce à ça sont autonomes, quoi.
C'est super. Je fais juste une petite aparté. Bonsoir John, tu arrives en cours d'enregistrement, donc ne t'inquiète pas. N'hésite pas si tu as des questions sur l'association ou autre à le faire. Par contre, comme on a dit tout à l'heure, on mute et on se démute. Hein, parce que sinon on va être ça va être compliqué. Voilà, donc okay. D'accord, donc c'est vrai que c'est quelque chose de surprenant, Claude, de voir le suivi que ont eu les enfants et les projets qu'ils ont eu avec l'ancienne équipe entre guillemets et la nouvelle équipe, mais je suppose que vous n'allez pas que dans cet axe-là, que du parrainage et de l'action autour des enfants handicapés. Je suppose que vous avez d'autres projets en parallèle.
Oui, on a toujours dans le handicap une aide qu'on fait tous les ans. On a participé à l'achat d'un bus pour emmener les gamins à l'école. Une autre année, on a retapé des latrines. Une autre année, ceci, cela. Et puis après, très rapidement, compte tenu qu'on a commencé à être connu dans la région, on entendait des réflexions un peu du style « Ouais, mais vous, les Yovo... » Alors, Yovo, ça veut dire blanc, hein, en togolais, hein, dialecte.
En plus, j'avais oublié de poser la question, donc ça voilà, très bien, tu as bien fait de le dire.
Hein, Yovo, donc, d'où l'origine, Yovo Togo, quoi. Hein. Et oui, vous, les Yovo, vous êtes les handicapés, mais si on n'a pas d'handicap, vous êtes personne d'autre. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui étaient entendables dans des pays aussi pauvres que ceux-là. On est vraiment dans une région d'Afrique de l'Ouest où les gens gagnent 1 euro. Leur souci d'aujourd'hui, c'est de gagner 1 euro pour demain, quoi. C'est spectaculaire.
Oui, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a rien. C'est de la survie quasiment.
C'est ça, puis de la solidarité entre eux surtout, c'est ça qui les sauve. Et donc à un moment donné, c'était en 2014, j'ai un des membres qui a eu l'opportunité de récupérer 45 ordinateurs dans une caisse d'assurance maladie de la région de Bordeaux. Et il m'a dit, tiens, j'ai 45 ordinateurs, ils sont en état de fonctionnement, tout marche bien, j'ai les écrans, les claviers, les souris. Il m'a dit, si tu les veux pour ton association, bon, alors là, je me suis dit, ben, faut que j'envoie ça, quoi. Donc, j'ai été me balader sur le net, et puis à cette époque-là, avant de connaître Patrick, j'ai connu David, un ami à lui qui fait partie du collectif Ubuntu également. Mmh. Et à cette époque-là, il m'avait dirigé sur Ubuntu. Il m'a dit, mais faut mettre ça dans tes ordinateurs, c'est mieux que Windows, et puis en Afrique, ce sera beaucoup plus adapté. Donc voilà ce que j'ai fait. Et avec cette première série d'ordinateurs que j'ai envoyé là-bas, on a monté la première salle informatique qu'on a montée, évidemment, c'était au centre d'enfants handicapés.
D'accord.
Alors, c'est pas la peine de dire un peu l'impact que ça a eu, que d'un seul coup on amène une vingtaine d'ordinateurs dans un centre d'handicapés, quoi. Et après, donc, une deuxième salle à Nano, et à la suite de ça, bon, c'est là que je suis rentré en contact avec Patrick, et que, voilà, on a développé un peu, Patrick a pu me fournir l'année d'après en ordinateur, me parler de Ubuntu, quoi.
Me faire voir. On est en quelle année à peu près, Claude?
Bah, 85, là. 85, 86, ouais, c'est ça. Hein, 80, qu'est-ce que je raconte? 96, qu'est-ce que je raconte?
2015-2016.
Oui, merci. Oui. Voilà,
ça, c'est l'effet de la ça. Bière, ça.
Ouais. Ouais, allez, faut t'avouer ta moitié, pardon.
Voilà. Avant que tu enchaînes, il y avait Morgane qui avait une petite question, si je ne me trompe pas. Morgane, tu avais une petite question.
Ouais, j'avais voulu intervenir, c'est juste que tu disais, tu parlais des enfants. Bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas le cas comme ça pour tous les enfants au Togo. Je vois mon université, il y a un mec là, il a des partenariats, genre au Malgache, au Togo et tout ça. Et genre chaque année, t'as des étudiants qui viennent étudier en France, qui ont la bourse et tout, enfin ils prennent c'est une université publique, hein, de France, qui prennent des enfants au Togo et qui les font étudier genre en informatique ou des trucs comme ça. Et eux, c'est, enfin bah, de toute façon, tu payes rien, c'est gratuit, mais ils sont dans le Crous, ils sont logés, ils ont les bourses et tout ça, et ils sont payés pour venir étudier en France. Genre, il y a plein d'enfants que l'État français prend là-bas pour les faire étudier dans leur pays. Bah, la fibre des cerveaux, quoi.
Oui, c'est certain, je connaissais un peu, juste un peu, l'ambassade de France au Togo et l'ambassade du Togo à Paris. Hein, on avait, ben d'ailleurs, avec Patrick, on avait rencontré l'ambassadeur il y a deux, trois ans, quelque chose comme ça. Bon, ils ont des programmes en commun, mais bon, sans vouloir coller d'étiquette aux vénards, je veux dire, c'est des privilégiés, ceux qui arrivent à vivre ça au Togo. C'est vraiment des gens qui ont des pop-up et des mamans qui savent taper à la porte. Hein. C'est des privilégiés parce que le nord du Togo, c'est vraiment à l'arrache, quoi. Tout est à l'arrache, quoi. C'est une région très très pauvre.
D'accord, Claude. Bah écoute, on va essayer d'intégrer maintenant Patrick dans la conversation, puisqu'on était entre 2015 et 2016. Donc toi, Patrick, tu as eu l'opportunité de rencontrer Claude. Mais les premiers PC qui ont été envoyés là-bas, est-ce qu'ils étaient sur quoi? Ils étaient sur du Windows ou vous aviez déjà installé du Ubuntu dessus?
Moi, la première série des 45 PC que j'ai envoyé là-bas, c'est parti en Ubuntu.
D'accord.
Ça, c'est okay. La toute première série.
Et quelle version d'Ubuntu, tu te rappelles?
Oh là, non.
Bon, après 2015-2016, ça devait être
c'était la 14.10 ou de la 14.04. C'était même pas Ubuntu, c'était Xubuntu.
C'était Xubuntu.
C'était Xubuntu.
Une 2014, c'était.
D'accord.
Parce que je les ai retrouvés quand j'y suis allé, c'était une 2014.04.
Et ils tournent encore là-bas?
Non, non, mais ils sont tous passés en Emabuntu maintenant.
D'accord.
Oui, après quand j'y suis allé, j'ai tous remis en Emabuntu.
Ouais.
Je sais, c'est pas très fair play, mais bon.
On prêche pour sa paroisse. Alors justement, Patrick, donc toi, oui. tu es arrivé en cours de projet avec ces PC-là. Claude te contacte, donc il y avait déjà eu ses premiers 45 PC, et je suppose qu'il y a eu une autre fournée de PC qui devait partir. Et comment tu es arrivé dans le projet, et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de créer cette distribution?
Alors, nous, il faut savoir que on avait créé la distribution avant que je rencontre Claude. Nous, on a créé la distribution, la première version que l'on a diffusée sur Internet, c'était mars de 2011. Mais moi, j'ai commencé sur le projet qui s'appelait pas encore Emabuntu, en mai 2010, où j'ai commencé à travailler comme bénévole dans la communauté d'Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Donc là, j'ai reconditionné d'abord pendant 4 mois des PC sur XP, avec un petit script que j'avais développé pour les reconditionner de façon semi-automatique. Et c'est suite en voyant que des gens nous donnaient des PC sans disque dur, où j'ai eu l'idée d'utiliser une distribution Linux pour reconditionner les PC sans violer la licence Windows, quoi. Parce que comme on n'avait pas l'original, si j'installais un Windows sur le PC, ben forcément j'étais obligé de mettre un Windows non référencé sur ce PC. Voilà, vous comprenez?
Et puis aussi avec le fait que on sait très bien que les mises à jour des Windows font souvent ralentir le matériel au bout d'un certain temps.
Oui, mais après ce que l'on faisait, c'est que le script aussi prenait beaucoup de temps. Donc il y avait la problématique du disque dur qui n'était pas fourni par les utilisateurs, par les donateurs, on va dire. Et puis après aussi, c'est ce script qui nous prenait à peu près 4 à 5 heures pour faire la mise à jour, le nettoyage et la mise à jour d'un PC. D'accord, avec plusieurs redémarrages. C'était un script qui était écrit en partie en bash et puis en bash et en TCLTK. Voilà.
Attends, pourquoi une installation ça prend 5 heures?
Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était de pas installer l'OS avec une copie d'un clone, sinon on aurait mis des licences qui seraient fausses, qu'on n'avait pas de générateur de licence, donc on aurait fait des copies. Donc on voulait garder la licence originale du donateur, et donc pour ça on devait désinstaller les logiciels présents. Donc il fallait que le logiciel arrive à déterminer de façon automatique les logiciels présents, il fallait qu'il départitionne le disque, et après on réinstallait des logiciels libres comme LibreOffice, Firefox, puis on faisait toutes les mises à jour de Windows, quoi. On partait c'était de l'XP, on partait du service pack 1, service pack 2, service pack 3, plus toutes les mises à jour qui étaient derrière. Donc ça prenait beaucoup de temps, même si les mises à jour étaient déjà présentes sur le support. À l'époque c'était un DVD, même si elles étaient là-dessus, ça prenait beaucoup de temps. Parce que quand tu achètes un ordinateur, si par exemple tu as un HP, que tu fais la restauration du système HP, tu repars à un système d'origine quasiment neuf, mais là il n'a pas les mises à jour. Dès que tu vas le connecter sur Internet, tu vas te faire démonter ta machine. Donc on était obligé de le mettre à hauteur au niveau des mises à jour du PC pour pas que quand il serait branché sur Internet, tout de suite il soit pris par des failles de sécurité. J'ai répondu à ta question?
Ouais, d'accord, c'est parce que vous aviez Windows à maintenir, ça prenait beaucoup de temps et du coup vous êtes passé à Linux.
Voilà, donc on est passé à Linux pour ces deux raisons-là. Et donc au départ, je suis parti sur une base Ubuntu, la 10.04. Et avec un CD, on mettait le CD, après on faisait les mises à jour, et là aussi ça prenait pas mal de temps, même si on mettait les mises à jour dans le cache, APT, ça prenait encore pas mal de temps, Et puis on a installé le logiciel derrière avec la commande d'installation sudo apt-get install, ça prenait beaucoup de temps. Et donc on est passé à, on a eu l'idée de dire avec d'autres amis que j'ai rencontrés à une Ubuntu party, bah, il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus traditionnel, de faire une ISO, quoi. Et donc j'ai travaillé à partir de décembre 2010 sur le projet de réaliser une ISO pour faire ce qu'allait devenir Emabuntu.
Ah oui, d'accord, c'est donc ça répondait plus à tes besoins à la base. Parce que
ça répondait à mes besoins à la base quand j'étais bénévole dans cette communauté. Et après, quand on a vu bon, qu'on a eu plus de succès, on a eu la chance d'avoir une interview sur sur Framasoft, sur le Framablog au tout début en janvier 2011, qui nous a lancé, qui nous a fait avoir un peu plus de visibilité. Donc il y a des gens qui sont rejoints comme David le projet. Et donc là, on a eu des gens qui nous ont aidés pour mettre en place les serveurs, savoir sur quel serveur distribuer l'ISO, savoir quel logiciel il fallait qu'on mette. Et donc après, on a dit, ben, on va pas rester cantonné. Moi, je me suis dit, on va pas rester cantonné à la communauté Emmaüs de Denis-Plaisance, même si c'est l'une des plus célèbres communautés de France, puisque c'est la première qui a été créée par l'abbé Pierre. On va essayer d'aider les communautés Emmaüs sur toute la France. Et donc on a commencé le projet de 2011 jusqu'à à peu près 2014-2015 à se rapprocher de différentes communautés Emmaüs. À l'heure actuelle, on est encore utilisé dans certaines communautés Emmaüs comme à Montpellier, où on a une communauté un GUL qui s'appelle Montpellier Libre, qui fait des animations tous les mois, une animation de présentation des Mabuntu dans cette communauté, et où des ordinateurs sont vendus sous ces Mabuntu dans cette communauté. Voilà. Et donc voilà le départ du projet. Et donc vers 2015, Claude a rencontré David et m'a contacté en me disant, voilà, moi j'installe Ubuntu, quels sont les avantages d'Emabuntu par rapport à Ubuntu, et ça on le verra dans la suite de l'interview.
Qui est David ?
David, c'est un membre fondateur ainsi que moi du collectif Emabuntu.
Donc, juste avant que tu enchaînes, parce que j'ai une question qui me revient comme ça, c'est quoi la différence entre un collectif et une association ?
Alors, très bonne question. Eh bien, un collectif, ça fonctionne comme une association, sauf que ça n'a pas de statut style statut de loi 1901. Donc ça veut dire que tu peux t'organiser comme tu veux. Par contre, tu as des problématiques si tu veux avoir un compte en banque, tu peux pas l'avoir, puisque tu n'es pas association. Voilà. Mais tu n'as pas à faire d'assemblée générale tous les ans. Tu fais ce que tu veux.
Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de trésorier, voilà. Etc. D'accord.
Donc nous, on est organisé en collectif. Et dans ça, c'est le groupe global. On pourrait appeler ça communauté, mais nous, on a préféré appeler ça collectif. Et dans ce collectif, on a un bureau qui s'appelle une coordination. Donc Claude fait partie aussi, David aussi, et d'autres personnes, on est 8, qui gérons la partie réflexion sur Emabuntu au niveau, on va dire, stratégique. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tel parrainage, telle association avec telle association? Voilà. Par exemple, à un moment donné, on a rencontré un moteur de recherche qui s'appelle Lilo, qui finance des projets sociaux et environnementaux. Ils nous ont proposé d'être sur leur plateforme pour être aidés, et ils nous ont demandé aussi de mettre Lilo comme moteur de recherche dans Emabuntu. Ben là, dans notre coordination, on a discuté pendant 2 mois pour savoir si on acceptait cette proposition. Voilà.
D'accord. Ah oui, c'est quand même allons process de réflexion. Alors bon, j'ai dû m'absenter quelques secondes parce que dans les Hauts-de-France, il faut savoir qu'il fait très chaud. Je pense que chez vous c'est pareil et j'ai des problèmes de fenêtre. Bref. Donc tu disais, David vous avez mis en contact à l'époque pour lancer un projet. Vous avez lancé combien de PC à l'époque au Togo, finalement, sur cette deuxième expédition?
Alors, à l'époque, donc j'ai rencontré Claude, donc on s'est téléphoné au début, et puis lui déjà il cherchait des informations sur quels sont les avantages des Mabuntu par rapport à Ubuntu. Donc ça, je lui ai expliqué ça, que nous on fournissait une distribution et on l'a complété avec ce qu'on appelle des données de culture libre. Donc on a un tuto sur notre site qui parle de ça. En fait, quand on fait des ordinateurs pour les associations, pour Emmaüs un peu moins, mais surtout pour les associations à l'étranger ou même en France, on rajoute des données de culture, ce qu'on appelle des données de culture libre, c'est-à-dire des livres au format e-pub qui sont tombés dans le domaine public, des musiques libres et surtout le Wikipédia hors ligne. Donc voilà, je dis, nous on peut t'expliquer comment faire ça et on peut te fournir un système de clonage pour pouvoir le faire ça de façon plus automatique, plus rapide. Donc ça c'était ça au départ, et puis je dis, si aussi tu as besoin d'ordinateurs, nous on nous en donne, on peut te fournir des ordinateurs. Par contre, comme je dis à tout le monde, quand on fournit des ordinateurs, les nôtres on les fournit 100% sous Emmabuntu. Voilà. Et donc Claude a été intéressé, et donc on lui a fourni au début la deuxième série d'ordinateurs qu'il n'avait pas. Maintenant, il en récupère tout seul, il n'a plus besoin de nous.
Je comprends pas comme tu dis, il n'a plus besoin de nous. C'est parce que Claude arrive maintenant à installer son matériel lui-même, ou il est déjà installé en amont, la distribution, etc. Elle est déjà préinstallée.
Alors je vais peut-être laisser parler Claude sur la. Il y a deux points.
Les amis, Patrick m'a fait une formation accélérée et très pointue. Je suis pratiquement autonome. Quand j'appelle au secours Patrick, c'est vraiment que j'ai un PC qui a décidé de me gâcher la matinée. Sinon, j'arrive à avec le matériel qu'il a mis à ma disposition, avec les clés USB qui contiennent tous les programmes, j'arrive à transformer un Windows en un Emmabuntu en 6 ou 7 minutes, hein, Patrick, c'est ça?
Tout à fait, il faut 5 minutes pour le clonage, et puis après il faut 15 minutes pour mettre le Wikipédia.
Voilà, avec le Wikipédia c'est un peu plus long.
Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc c'est de la simple installation, on écrase tout.
Oui,
on
voilà.
On fait pas du dual boot, hein, on est bien d'accord.
Non, c'est pas du dual boot, c'est un système de clonage. On a instrumenté, ça c'est pour nos fonctionnements internes, ça on le diffuse pas, sauf aux associations qui veulent travailler avec nous, parce que c'est assez compliqué la mise en œuvre. On a des clés USB qui sont sur multi-système, qui permet d'avoir une double amorce, et donc on utilise Clonezilla instrumenté pour formater le disque dur en automatique, partitionner le disque dur en automatique, faire la copie du clone, et voilà, et donc tout ça c'est fait en 5 minutes.
D'accord. Claude, tu penses à inviter, et moi j'avais une question, du coup juste le script, on se d'accord, parce que j'ai été dans j'ai fait des install parties plusieurs fois, et vous en fait c'est un script, tu démarres le PC, c'est un Windows, tu lances le script, et ça écrase tout et ça fonctionne.
Non, tu...
Vous devez booter en live USB et faire des trucs.
Oui, c'est en live. On est en
Clonezilla
live. Donc le script qui ne voit pas Windows, on lance Clonezilla, ça tout le monde peut récupérer Clonezilla, et dans Clonezilla on appelle deux petits scripts, un qui fait le partitionnement, la détermination de la taille de la RAM pour calculer la swap, et après derrière qui repasse la main à Clonezilla pour copier le clone.
Et vous utilisez quoi comme règle pour le swap, vous?
La règle, on utilise la règle empirique de deux fois la taille de la RAM.
Deux fois la taille de la RAM, ok. Ouais.
Alors, une petite remarque, John, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, j'avais une petite question justement concernant l'installation, etc. Maintenant que vous arrivez à quasiment automatiser l'installation, donc je suppose que quand Claude reçoit ses PC, maintenant c'est lui qui les fait un par un, mais est-ce que t'attends d'avoir un stock de combien de PC avant de lancer une expédition là-bas?
Les dernières expéditions, ça tournait entre 80 et 100. 100 PC.
Parce que je suppose que ça coûte pas 4 francs 6 sous d'aller envoyer ça là-bas.
Je suis impressionné.
Là actuellement j'ai prêt sur palette, mais ça devrait être dans le bateau, mais avec le Covid-19 tout est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, hein, mais bon, ça va être remis à plus tard avec le container. On envoie ça avec un container collaboratif d'une autre association dans Mulhouse, Cap Togo, et l'année dernière j'en ai envoyé un peu moins. j'envoyais du portable pour des étudiants. L'année d'avant, j'en avais envoyé 110, l'année d'avant 85. Bon, en tout, on doit frôler les 450 PC envoyés depuis le début de l'aventure. Hein, et là, j'en ai 130 sous le coude qui sont prêts à partir.
Ah, c'est énorme. Ça me paraît énorme comme chiffre. Je suis bluffé, quoi.
J'ai pu devenir presque autonome à trouver parce que bon, il y a une règle d'or aussi bien que ce soit pour ça que pour les parrainages. Moi, je donne toujours du retour et des nouvelles aux gens. Et de ce fait-là, ben, on est aidé par des lycées qui nous mettent de côté tout leur informatique réformée et puis qui nous le confient. Alors après, pour arriver à faire des lots bien calés, bien carrés, par exemple cette année, je suis retourné chez Patrick parce qu'il y a une boîte dans sa région, Atelier Sans Frontières, pour acheter des écrans qui me manquaient, un peu de clavier, pour arriver à refaire... J'ai pas toujours tout ce qu'il me faut, quoi.
Mais et bon. Donc, moi, par exemple, qui peux avoir des claviers, des ordinateurs à donner, faudrait que je fasse comment pour en donner ?
Bah, faudrait déjà qu'on en parle.
Non, mais moi, par exemple, j'ai des trucs qui sont chez moi, je te l'envoie une adresse
Ah oui, bah chez moi, ça, tout se
donc
passe...
Donc c'est toi qu'il faut aller voir personnellement.
Voilà,
et tout se passe chez moi. Comment on peut te contacter pour ça ?
Tu as... J'ai mis en... Attends, j'ai mis le site Votogo en lien sur Framasoft et en pied de page du site, tu as tout sur tous les contacts, le numéro de téléphone, les emails et tout.
Parfait. Je vais rebondir sur les propos de Morgane. Quand on parlait justement d'expédition, que ça coûte pas 86 sous, si tu devais quantifier à la louche, hein, un prix sur un PC, donc entre le moment où tu le reçois, le moment où il est, entre le moment où il est reconditionné, etc., et le moment où il est reçu. Mmh. Est-ce que tu pourrais quantifier la somme que ça peut coûter?
C'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai pas le chiffre précis en tête. Bon, un mètre cube, moi j'envoie depuis le port d'Anvers jusqu'à Sokodé maintenant, qui est une ville à mi-chemin dans le Togo. J'envoie un mètre cube pour 150 euros. On me demande 150 euros sur un mètre cube. Bon, dans un mètre cube, là je suis arrivé à 3 mètres cubes, j'ai 100 ordinateurs. Donc tu vois, un mètre cube, ça doit faire 30, un peu plus de 30 ordinateurs. 150 euros, c'est pas énorme. Bon, après,
ça se revient à 5 euros le PC, on va dire à peu près.
Ah, plus quand même. Je crois qu'on peut tourner à entre 12 et 15, je crois.
Parce que
de chez moi en Vendée, il y a un semi-remorque qui m'emmène mon matériel à Mulhouse. Et puis une fois arrivé à Sokodé, on reprend un transporteur de Dapaon. Sokodé-Dapaon, il y a encore 300 km à faire au Togo, quoi. Donc j'ai un peu de frais de transport terrestre. Si on dit 15 euros, je suis sûr que je mens pas. 15 euros le PC, ça reste vachement intéressant dans un pays où il n'y en a pas.
Est-ce que j'ai une question avec, tu nous as parlé en off, que tu as des problèmes avec les containers, là, avec le Covid. Enfin, peut-être même tu l'as dit. Moi je remarque sur Amazon que tout ce que j'achète, là, ça coûte plus cher en frais de livraison. Est-ce que tu as une augmentation des prix?
Non.
Non, tu payes le même prix toujours pour le mètre cube malgré
tout. Ouais, non, mais moi, bon, c'est un prix avec une autre association qui fédère un peu tous ceux qui s'occupent du Togo, hein, c'est Cap Togo. Hein, c'est une association un peu plus costaud que moi en termes de connaissances politiques dans le pays, de trucs comme ça, quoi. Ils connaissent plus de gens que moi. Et donc, bon, ils arrivent à dépatouiller parfois quand on a des problématiques. Mais non, il n'y a pas d'augmentation. Bon, là, je sais pas le prochain container, quand est-ce qu'il va être remis sur rail, si je peux m'exprimer ainsi. Et je sais pas s'il va y avoir des prix de transport qui vont être modifiés, compte tenu que les compagnies maritimes ont perdu aussi beaucoup de sous, certainement, autant que les avionneurs.
Alors, pour avoir fait un petit peu de transport international, on va dire que tu envoies dans le mauvais sens. Mais je pense qu'après l'association doit avoir des avantages aussi, parce que le problème que tu as, c'est que, comme je disais, t'es dans le mauvais sens parce que tu es dans le sens de l'aller. En disant que le Togo importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Si tu devais exporter du Togo vers la France, je peux te dire que ça serait un tarif encore plus bas que tes 15 euros par PC. Après, je pense que de manière générale, le fait de passer par une association, déjà, bah, tout ce qui est droits de douane, tout ça, ça va être largement allégé. Donc, je pense que malgré tout, tu devrais pas avoir une augmentation significative de tes frais de transport.
Ça reste, on verra. On verra, il y a, de toute façon, concernant le Togo et beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, il y a un paramètre qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la corruption. Hein, et même en douane. Bon, ça, c'est peut-être pas, je sais pas quel est votre auditoire, mais bon, c'est peut-être pas la peine de le mettre dans l'enregistrement final.
Oh, de toute façon, on est sans filtre, hein. De toute façon, on est écouté un peu de partout dans le monde.
Donc, ouais,
les quelques
mais
auditeurs
non,
africains
pas,
c'est ont le rôle de vider.
C'est un secret de polichinelle.
Exactement.
Il y a la corruption, quoi. Même si tu t'es affranchi de frais de douane, nous on envoie ça avec CapTogo sous couvert d'un accord programme gouvernemental, hein. C'est-à-dire que il y a des engagements comme quoi c'est vraiment de l'humanitaire et rien de ce qui est dans le conteneur n'est à usage commercial ou de revente ou quoi ou qu'est-ce. Mais il faut quand même payer le bakchich, le chef douanier en sortant. Si on veut que le conteneur sorte du port, quoi.
Claude, justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises surprises? Dans le sens où, bah, tu sais que t'en as envoyé autant et t'en as une part des anges.
Ça, c'est la question de chez question de la soirée, ça. On n'a ni ça, ni à la date d'aujourd'hui eu un écran de café ou quoi que ce soit, quoi. Tout ce qu'on... Bon, attends. Et là-bas, il y a des absents ici ce soir. Là-bas, on a une équipe de choc, Patrick y connaît, Yobé Kombodi, qui a été la personne qui m'a dit que là, tu peux foncer là-dedans, ça va aller. Hein, parce que il faut aussi avoir, localement, au Togo, il faut avoir une équipe sur qui on peut compter. Et ça a été le cas. En même temps que j'ai connu Patrick en France, j'ai connu donc Yobé Kombodi, qui est au Togo et qui est un monsieur quand même qui sort de, hein, il sort de de la trame un peu. Il est responsable de la chambre du commerce et de l'industrie.
Ah ouais, Togo. Mais t'es tombé sur la bonne personne au bon moment.
Ouais, non mais voilà, exactement. Puis il m'a dit, oh moi tu me parles de numérique, c'est mon truc, c'est mon machin. J'ai toujours rêvé d'équiper les écoles. Et puis c'est lui qui m'a dit, on va faire. Et puis Yobé et moi, ce matin, je lui pose une question par WhatsApp. Avant ce soir, si j'ai pas la réponse, c'est qu'il a pas eu de réseau de la journée, quoi. C'est quelqu'un sur qui je peux compter les yeux fermés, quoi. Il y a pas de, hein, autant avec Yobé qu'avec Patrick, hein. Donc il faut tout dire, il faut dire ça aussi, hein.
Je rebondis sur un excellent sujet. Je pense que Patrick va pouvoir nous répondre là-bas parce qu'il a été là-bas. Une fois sur place, parce qu'il y a quand même une grosse problématique, je suppose que quand ils sont sur place, les PC, c'est pas pour faire que du LibreOffice ou du SuperTuxCart. À un moment donné, ils vont vouloir se connecter à Internet.
Ouais,
alors
mais...
justement, comment ça se passe?
Non, ils peuvent pas. Ils n'ont pas la connexion Internet. C'est pour ça qu'on met les Wikipédia et les bouquins, pour qu'ils aient quelque chose pour apprendre. C'est pour ça qu'on met le Wikipédia en ligne français qui fait 30 gigas.
Ah, vous installez tout le site en PHP sur le...
Ah ouais.
Non, c'est pas du PHP. Sur notre... Je te mettrai le lien, sinon on le trouve sur notre site. C'est serveur de culture libre sur Emabuntu. On utilise depuis le début une application qui s'appelle Kiwix, qui est développée par des francophones, je crois. Peut-être un Suisse, qui a eu le prix sur SourceForge et le prix du mois sur SourceForge. Et cette application permet de mettre un Wikipédia qui est dans un format qui est du zip, ça s'appelle ZIM, c'est comme un zip, il n'y a qu'un seul fichier, et cette application ouvre ce fichier et te présente une interface, style un peu une interface web. D'accord. Et donc tu as tous les et à l'intérieur tu as un petit moteur de recherche de cette application. Tous les mots sont indexés, tous les articles sont indexés. Et donc tu fais une recherche par le mot le point d'entrée du mot que tu cherches. Par exemple, on peut dire Emabuntus ou Yovo Togo, puisque les deux ils sont sur ce Wikipédia. Et après dedans tu as des liens qui t'amènent d'article en article. Et même tu as des liens qui vont sur le vrai Internet. Donc tu as une photo du Wikipédia à date. Voilà. Donc là,
c'est un moteur de recherche Wikipédia, en fait, ce que tu
penses. Non. C'est eux-mêmes, c'est l'équipe de Kiwix avec d'autres personnes sur leur site, fournissent une extraction du Wikipédia à telle date. dans un fichier ZIM. Donc tu l'as pour les versions françaises, anglaises, tu en as, tu as une page où il y a 2000 références, tu as même d'autres, tu as même des vidéos, tu as même les Wikipédia médicaux, tu as Wikisource, tu as tous les projets Wiki, et donc tu récupères ce fichier-là. Donc je conseille, s'il y en a, si des auditeurs veulent le faire, de le récupérer via le serveur torrent, parce que si on le fait par téléchargement direct, ça plante, que le torrent, ça va beaucoup plus vite, et ils ont un torrent qui est fourni par je sais pas qui, mais qui est super performant, où vous allez à la vitesse max de votre liaison, hein. Donc je l'ai testé à plusieurs endroits, moi je mets 24 heures pour télécharger le fichier, qui fait 32 gigas, et donc on installe ce fichier, on copie ce fichier directement, comme si on copiait un DivX, quoi, sur un Mabuntu, avant on l'a mis sur la clé USB, et après de la clé USB, on le met sur un... Comment dirais-je, sur le disque dur sur Mabuntu, ouais. Après on fait le lien, donc on fait ouvrir le fichier et clac, le lien est fait.
Un Mabuntu, c'est combien de gigas une fois installé?
Alors une fois installé, ça varie entre 9 et 10 gigas et demi. Voilà.
Avec le wiki et tout?
Non, ça on parle que des Mabuntu. Après tu fais donc ça 10 gigas plus le wiki 32, il faut un disque dur de 80 gigas minimum. C'est nos demandes. Tout à l'heure, on parlait de la donation des PC.
Oh, 80 gigas, ça va, hein, ça... Voilà. C'est disque dur d'il y a 20 ans.
Oui, tout à fait. Donc avec Claude, c'est moi qui m'occupe aussi du côté technique chez Yovo Togo. Il m'a demandé de l'aider au niveau technique et support. Quand on récupère des PC pour le Togo ou pour d'autres projets sur l'Afrique, on va dire, ou ailleurs, on est rigoureux sur la demande des PC, c'est-à-dire qu'on veut des lots. C'est-à-dire qu'un lot, c'est 20 PC minimum que l'on demande. Alors pourquoi on demande ça? Parce que on veut une certaine pérennité dans le temps, on veut que les PC qui sont envoyés soient tous homogènes pour qu'on puisse récupérer des pièces de l'un sur l'autre pour pouvoir les maintenir le plus longtemps, que la salle soit autonome en elle-même. Donc on ne prendra pas 10 PC d'une marque et 10 PC d'une autre marque. On veut les 20 mêmes.
Donc, je rebondis sur ce que voilà. Tu disais, Patrick. Si par exemple maintenant je voudrais t'offrir ou donner le PC idéal, ça serait quoi?
Nous, on n'a pas de PC idéal. Ce que l'on veut déjà, c'est des PC qui soient par 20. Voilà.
Donc, t'as le PC pas de... idéal, non, mais je veux dire,
ça serait 20 portables.
20 portables, mais portables nouveaux. Les nouveaux du, pas exemple. Du HP, pas du Dell.
Non, plus oh. Du Lenovo.
Ah, sur c'est les portables, marrant, ça monte bien, les nouveaux.
Sur les portables, ça serait plus du Lenovo. En fait, les ordinateurs que l'on envoie là-bas. Pour l'Afrique, on va dire, et tous les projets à qui on donne du PC, c'est en général du PC professionnel ou semi-professionnel. On en voit que très rarement quelques portables des fois qui sont des portables grand public parce qu'on n'en a pas assez, on peut pas être aussi exigeant, mais sinon c'est du PC professionnel.
C'est une bonne question ça, Deka. Dans votre le parc informatique, moi ce que je vois dans les install parties, c'est que HP c'est super difficile d'installer un Linux dessus avec les machins de UEFI boot machin là, c'est super relou.
Après on a du HP hein. Je parlais pour les portables.
Ouais
du HP on en a envoyé au Togo, on a envoyé du pas mal d'HP plus de.
On
HP.
A envoyé des compacts.
Des
tu parles d'antiquité là Claude.
Non, mais on a envoyé des HP compacts. Voilà, c'est ouais. Compact a été repris par HP, mais ils ont encore tagué compact. On a envoyé du Lenovo, le modèle classique du Lenovo. Mais pour le portable, c'est plus Lenovo que HP. Mais en général, on n'en trouve pas, donc on achète de l'HP. Ok.
Puis même, je fais un peu... pad, c'est increvable, hein, donc ça reste une bonne machine. Ouais.
J'ai envie de faire un petit point news.
Bien sûr.
Est-ce que tu as entendu parler là de ThinkPad? Quelque chose comme ça, qui supporte Linux maintenant. T'es comme t'as les PC Dell Linux, développeur édition machin là, et il y a ThinkPad, je suis pas sûr exactement que ça soit ça, mais bref, qui...
Et le nouveau qui lance... ThinkPad, non?
Ouais, c'est ça qui veut parler.
Ouais, ThinkPad, ouais, c'est ça.
Les fameux qui ont la petite boule rouge au milieu du clavier, là.
Ouais.
Ouais. Et qui supportent nativement, et apparemment ils sont impliqués, ils patchent sur le noyau, et ils s'impliquent à ce que le hardware il fonctionne bien et tout.
C'est possible, mais nous on n'a pas trop de soucis de reconditionnement.
Après, mais t'as entendu parler de ça ou pas?
Non, je ne sais pas, mais nous on n'a pas trop de soucis de reconditionnement. Moi, j'ai pour l'instant quasiment pas trouvé de machine que j'ai pas réussi à reconditionner. Mais on est plus sur des gammes professionnelles. Maintenant, je ne fais plus des install parties avant je à la Cité des Sciences où je faisais des install parties. Quand est arrivé l'UFI, je suis parti en courant parce qu'on avait des difficultés à les faire, une chance sur deux de bousiller l'ordinateur. Donc maintenant j'ai arrêté ça, mais maintenant on a trouvé des solutions sur l'UFI. Mais les PC que l'on a, c'est vraiment des PC qui sont plus anciens, donc on n'a pas ces problématiques là. On a eu une problématique là en février avec Claude sur un lot de PC qu'on a récupéré où ils avaient activé l'UFI, notre script ne marchait pas et on ne savait pas, donc on a galéré une journée, on a trouvé le palliatif. Ça faisait 4 ans que le script fonctionnait sans problème pour partitionner les disques durs, et là bah il y avait Partid, le soft qu'on utilisait c'était Partid et pas Gpartid. Partid ne supporte pas le UFI, n'est pas capable de shooter le UFI. Et donc j'ai trouvé sur un forum sur internet, donc on a passé une commande avant pour shooter la partition GPT, et donc maintenant le script continue à fonctionner, mais des fois on a des surprises comme ça. D'accord. Mais on n'a pas à l'heure actuelle, on a très peu d'ordinateurs que l'on a dû mettre, on va dire, à la poubelle ou en déchetterie parce qu'on n'a pas réussi à le reconditionner. On a très très peu.
C'est impressionnant le taux de succès, c'est impressionnant.
Sur les ordinateurs, on est à un taux de succès de, comment dirais-je, 95%, voire du 100%. Là, cette année, on en a un qu'on a jeté parce que qui nous avait été fourni par le ministère des Finances, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. On avait filé 40. Mmh. Il y en avait qu'un seul qui fonctionnait pas. Donc, on l'a jeté. On est désolé pour eux. On a interdiction de les revendre. Celui-là, on l'a jeté parce qu'il ne fonctionnait pas. Mais sinon, on a des taux de pourcentage très, très importants.
Alors, je rebondis justement
par les professionnels, hein.
Ouais. Et même en longévité, là-bas au Togo, on n'a pratiquement pas de déchets, hein.
Non.
Ah ouais?
Non. Bon,
t'as des PC 2015 qui tournent encore.
Ouais, c'est ça. Bon, on a un maintenancier qui tient la vague. Hein. Oui, Patrick le connaît, c'est Afou,
bien sûr.
Hein, qui est un très bon maintenancier. Il sait ce qu'il fait. Et j'ai fait un point avec lui là, avant d'envoyer les ordi pour savoir s'il fallait que je mette un peu de rap, de clavier ou de souris, s'il avait des manques dans ses pièces de rechange. Il m'a dit non, tout se passe bien, j'ai pas de manque. Il m'a dit, je crois que l'année dernière, il a dû mettre HS un seul PC, quoi, donc qu'il a remis en pièces pour récupérer la carte mère et quelques bricoles.
Tout à fait.
Parce qu'il s'en sert pour faire ça. Un PC qui tombe vraiment en rade ou qui est HS là-bas, bah, il fait de la pièce détachée pour.
Ouais, c'est les produits de débrouille, c'est les produits recyclage.
C'est vachement fiable. On n'a aucune raison de changer de fusil d'épaule.
Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe là-bas, bon, déjà, ils étaient formés, hein. Yobé, dont Claude parlait, il avait installé les premiers Emabuntu. Quand ils ont installé les Emabuntu, c'est pas moi qui les ai installés, ni personne du collectif. C'est Yobé qui les a installés avec des DVD. Il avait récupéré l'ISO, il avait gravé son DVD, et ils ont fait les premiers, la salle à, je sais plus, tu sais, la grande salle avec les 30 ordi, ils les avaient fait à la mano, hein. Mmh. Avec l'ISO, tout ça. Donc, ils ont fait eux-mêmes. Et après, quand je les ai vus, j'ai finalisé avec eux la formation avec la clé USB, comment ça fonctionne. Mais ils sont autonomes. Hein. Ils savent réparer. Ils n'ont pas besoin de nous. Bon, des fois, il y a quelques petits cafouillages avec des imprimantes. L'an dernier, Claude, mais bon. Ça, c'est pas grave.
Ouais,
mais
bon, justement, j'allais rebondir sur les périphériques. Donc, ça tombe bien. Avant d'enchaîner sur les périphériques, j'avais juste une petite question. Claude, quand tu prévois, ou même Patrick, hein, quand vous prévoyez un conteneur, justement, tu disais, voilà, je vais envoyer 30 PC. Bon, il y a toujours clavier, souris, écran. Mais est-ce que tu prévois toujours un petit stock de RAD? Tu te dis, bon, allez, sur les 30, est-ce que je me mets 3, 4 claviers de côté? En plus, pour au cas où je les mets avec, combien de claviers, combien de souris? Parce que tu te dis, bon, il peut avoir un pourcentage de casse au moment de l'arrivée. Bon, tu as dit que tu en avais très peu. Mais même pour anticiper une fois sur place, est-ce que tu prévois toujours un petit stock de RAD?
Ben la réponse est simple, moi j'envoie toujours tout ce que j'ai au moment où j'envoie. Par exemple, là j'ai 130 ordinateurs, je t'ai dit, qui sont sur le point de partir. Si d'opportunité on devait me filer une trentaine de claviers demain, je refais un carton, je mets 30 claviers, j'envoie. C'est moi, j'ai pas besoin ici, c'est eux qui ont besoin, donc les pièces doivent être là-bas, tu vois. Après, je tiens compte, par exemple, en ce moment je sais qu'ils ont. Ils ont de bonnes marges de clavier. Si j'avais manqué de clavier là, dans mon prochain envoi, je sais qu'ils en ont 20 ou 30 d'avance. Bon, ben, j'envoie avec l'absence de 20 ou 30 claviers. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais
le stock est connu entre moi et eux, quoi.
Oui, Claude et Afo, ils connaissent on connaît le stock, l'état du stock en temps réel, avant le départ.
Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs, tous les ordinateurs qui sont envoyés, qui partent de France maintenant, même avec d'autres projets, par exemple, là, moi, je travaille avec une autre projet pour le Sénégal, on en parlera tout à l'heure, ils sont 100% installés, 100% testés.
Ah oui, voilà.
En 30 minutes. Bon, pas des, on fait pas des tests d'endurance, on peut pas savoir à la chaleur, mais ils sont testés, l'ordinateur, on vérifie qu'il démarre.
Voilà, c'est ça, c'est
disque dur avec le smart. Et tous les écrans sont démarrés et contrôlés avant le départ.
Voilà.
Le seul truc qu'on contrôle pas, c'est forcément les claviers et les souris. On sort pas tous les claviers et les souris, on les teste pas. Donc c'est le seul endroit où on a un point d'interrogation, c'est sur cette partie-là.
Ouais, mais, et je reviens également sur un autre sujet qui peut arriver aussi, parce que je suppose que le réseau électrique là-bas, il doit pas être non plus top. Et justement, je me posais des questions sur les problèmes d'alimentation électrique des PC.
Oui,
normalement. Si vous n'avez pas de précommande des pannes.
On a eu un problème sur une salle, la salle de temps de joirée, où pendant un an, ils pouvaient, sur une salle de 20 ordinateurs, ils pouvaient en faire tourner que 10. Ça, ils décrochaient le système électrique, décrochait au-delà de 10 PC. Bon, ils ont augmenté l'alimentation, c'est réglé. Donc c'est la seule chose qui peut nous arriver.
Ah, je pensais plus à des questions d'ordre, parce que alors peut-être que John ou Morgan ou Patrick pourront répondre, parce que moi on m'a toujours répondu, en gros, un problème qui peut arriver souvent sur une panne électrique, c'est quand il y a une panne de courant et que le PC tourne en même temps. Et justement, si vous n'avez pas fréquemment eu des pannes de ce type-là au début ou même entre deux depuis 2015, s'il n'y a pas eu des allumes de PC qui ont lâché, notamment sur les PC fixes, dues à des pannes électriques un peu trop fréquentes. Que ce soit pas dû à ce qu'il n'y avait pas assez d'alimentation ou dû tout simplement au réseau général qui lâchait.
Non, moi je suis pas. Je suis
intempestive au Togo, hein, constamment, hein, puisque avec le Ghana, l'électricité arrive au nord Togo et déjà le Ghana se sert de telle heure à telle heure, il distribue au Togo de telle heure à telle heure. Suivant les saisons, on sait qu'au Togo, de telle heure à telle heure, tu ne vas pas avoir de courant. Donc parfois, évidemment, ça décroche, mais on n'a pas de problème de... AFO nous a pas remonté des problèmes de maintenance au niveau des alimes, à ce niveau-là, quoi.
Pardon. Claude, il faudrait peut-être que tu dises aussi, parce que nos amis ne savent pas qu'on a des conditions pour ouvrir des salles et comment ça se passe pour ouvrir des salles.
Ah oui, ça c'est une très bonne question.
Ah oui, parce que... Ouais, t'as raison, Patrick. Bon, on tient les rênes quand même, hein, on travaille en confiance avec nos partenaires là-bas, mais on tient les rênes quand même, parce que dans les pays pauvres, bon ben il va sans dire que tout peut arriver, hein. Il y a toujours la tentation du marché noir pour s'accaparer des ordinateurs, les revendre sous le manteau et trucs comme ça. Donc aucun ordinateur n'est donné là-bas. Tous les ordinateurs qu'on envoie à notre ami Yobé, hein, qui est responsable, lui, Yobé a monté une autre association que vous verrez si vous allez vous balader sur nos sites, Jump Laborion. Hein. Jump J-U-M-P veut dire Jeunes Unis pour un monde de progrès. Et donc eux, ils font signer un papier comme quoi les ordinateurs sont en dotation à tel lycée. Et que, bon, sur le coup, ah ouais, vous les donnez pas, mais ils ont vite compris que c'était mieux qu'un don, parce que si on avait donné les ordinateurs, ils tombent en panne, ils n'auraient d'abord pas les moyens techniques de les faire réparer, ou alors ça leur coûterait de l'argent. Tandis que là, ils sont en dotation, et en échange de la dotation, s'il y a un problème avec un ordinateur, on a le maintenancier qui, à l'occasion d'une tournée, va remplacer l'écran, ou remplacer, changer le disque dur, ou ceci, cela. Donc ça, c'est quand même une garantie, c'est-à-dire que tous les 450 ordinateurs qui sont là-bas sont en compte à l'association partenaire, comprenez-vous?
Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre, tu m'as parlé de lycée et en même temps de l'association.
Oui,
donc,
oui.
J'ai eu un petit peu de mal à mettre le lien, en fait.
Oui, alors bon... Il y a une association Jump Laborion qui est notre partenaire au même titre que le collectif Mabuntu et mon partenaire aussi, hein, tu comprends? Et oui, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui gèrent avec les lycées. Moi, je suis au Togo entre 3 semaines et 2 mois suivant les années dans l'année, pas plus. Donc c'est eux qui gèrent à peu près la gestion, qui ont l'œil sur les salles informatiques, qui ont l'œil sur le matériel et tout. Et donc c'est eux qui font une dotation de l'informatique au lycée. Mais l'informatique n'est pas donnée au lycée.
Je comprends mieux maintenant. C'est-à-dire voilà. Que voilà, ils ont l'usufruit du matériel, mais ils n'en sont pas propriétaires.
Voilà, exactement. Tout à fait. Ils ont ce qui fait qu'on garde un regard dessus, et puis on n'a pas la déception de matériel qui disparaît, parce que bon, c'est quand même, vous comprenez aisément, c'est un gros boulot quand même pour nous, hein, de monter ça tous les ans, et donc on est à l'abri de ça, quoi.
Alors justement, vous parlez d'abri de ça. Moi, je me dis, il y a quand même des PC qui sont là depuis 5 ans. Sur place, d'après ce que si je me trompe pas, 4-5 ans.
C'est ça.
Bon, un jour ou l'autre, il y aura de la casse, il y aura de l'obsolescence.
Bien sûr.
Comment vous voyez la suite de ces PC-là? Est-ce qu'ils vont être rapatriés? Est-ce qu'ils vont être recyclés? Est-ce qu'ils vont être redonnés? Est-ce qu'ils vont être démontés?
On n'en est pas arrivé là.
Vous n'avez pas encore réfléchi sur la suite de...
Non.
Ben non, on va faire un flot continu d'envois réguliers. Pour maintenir une année, peut-être on fera des PC juste pour remplacer les manquants, mais pour l'instant on n'a quasiment pas envoyé de PC pour remplacer les manquants. Là, cette année, on va peut-être rééquiper un peu la salle du centre d'Honorion, remettre à niveau les PC parce qu'ils sont un peu vieux, mais
c'est les premiers, hein.
Oui, c'est les premiers, tout à fait. Mais ce que tu as pas parlé, Claude, je me permets. Quand les lycées...
Permets-toi, ma poule, permets-toi.
Pas de soucis, Claude. Quand les lycées sollicitent nos structures, on va dire, puisque moi, je fais partie aussi de Yovo Togo comme conseiller technique, donc je connais bien maintenant, quand ils nous sollicitent, ils passent par Jump Laborion, et il y a des obligations pour le lycée.
Voilà.
La première obligation que le lycée doit faire, parce que pour vous c'est évident, mais là-bas c'est pas du tout évident, c'est l'alimentation électrique du lycée d'une salle. Donc ça, c'est pas évident, parce que les lycées là-bas, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les toilettes, donc ça ressemble à des baraquements un peu militaires, quoi, des années 60, voilà. Donc ça ressemble un peu à ça, avec une grande cour au milieu.
C'est incroyable ce que tu me dis là, je pensais pas qu'on était descendu, on était encore aussi bas là-bas au
voilà.
Niveau développement.
Donc, oui.
Ils doivent s'engager pour nous amener l'électricité. Après, ils doivent s'engager à nous fournir une salle dédiée. Donc pour avoir une salle, les ordinateurs ne sont pas dispatchés dans le lycée, ils sont dans une salle dédiée. D'accord. Donc souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ben là-bas, ils prennent les enfants, ils les regroupent dans d'autres salles pour dégager une salle, parce qu'il n'y a pas de salle supplémentaire. En attendant de construire une nouvelle salle avec ces projets-là, sur les 2 dernières dotations, c'est la commune qui a construit la salle. D'accord. Qui a construit la nouvelle salle pour le lycée. Et la toute première, hein, c'était où là, au lycée où ils ont construit, les parents d'élèves ont construit la salle, là, Claude?
À Nano.
C'est l'une des photos qu'on utilise souvent. Cette salle-là, elle a été construite par les parents d'élèves avec leur argent sur leur loisir pour accueillir les PC.
Voilà, ouais, ils font. C'est dingue, les villageois africains ont l'habitude du pot commun, quoi. Ils savent que plus ils cotisent à plusieurs et plus ils arrivent à avoir des sommes, et c'est ce qu'ils font. À Bombouaka aussi, qui a été une des premières salles qu'on a fait l'année dernière, ils ont, dans le cadre d'une rénovation du lycée, ils ont créé une salle informatique. La salle informatique était hébergée dans une ancienne bibliothèque, un bâtiment qui servait à tout et à rien. Tandis que maintenant, la salle informatique est au cœur du lycée.
Alors, cette salle informatique, elle appartient au niveau de... Elle appartient au ministère de l'éducation togolais ou au niveau...
Pas forcément. Ouais, si on veut parler comme ça.
Au lycée togolais, quoi, au lycée local.
Si on veut parler comme ça, oui. Ouais, si on veut parler comme ça, la salle en elle-même, oui, mais pas les ordinateurs.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Togo, par exemple, dans un village, si tu as besoin d'une école, tu vas pas voir l'éducation nationale pour qu'ils te construisent l'école. Tu commences par aller voir les parents d'élèves, tu construis l'école, après, tu sollicites les parents d'élèves pour payer le professeur, tu fais ça pendant 5 ans, et après, ce professeur est intégré dans l'éducation nationale. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est pas comme chez nous.
Voilà, même pour la création d'un collège, ils font ce qu'on appelle un collège d'initiative locale. C'est-à-dire qu'au début, le collège, c'est une initiative locale, et une fois qu'il a tourné pendant 2-3 ans, eh ben, le gouvernement, s'il veut, le prend sous son aile comme un collège d'État.
Attends, ce que je comprends même pas, ça dépend même pas de la mairie locale, c'est les parents d'élèves qui décident de construire un collège ou un lycée.
Non mais, hey, je vous parle d'un autre monde. Eh oui, c'est vrai.
Vas-y Claude, tu devrais leur parler de la création d'emplois des responsables des salles.
Ouais. Après, non, il y a un petit détail avant, une petite anecdote. C'était, je sais pas si tu y étais à l'inauguration, Patrick, de la salle de Bombouaka, où on était face le matin, parce que dans les écoles le matin il y a le drapeau. Il y a le drapeau et tous les enfants chantent l'hymne national et tout. Donc c'était l'inauguration de la salle. On avait amené les PC la veille. Et donc avec mon mégaphone, je pose une question à l'assemblée, à tout le monde. Et je dis comme ça que ceux qui n'ont jamais vu un ordinateur lèvent la main. Putain, il y avait des mains levées de partout. Vous imaginez 1400 gamins un peu, c'est énorme, hein. Des mains levées de partout. Alors, j'ai inversé ma phrase. J'ai dit, bon, alors que ceux qui ont déjà mis leurs doigts sur un ordinateur lèvent la main. Et là, on a pu compter 12 mains de levée.
C'est incroyable. Ce que tu me dis là, c'est, ça me.
Ben, c'est quoi, du vécu.
C'est incroyable
sur
parce que.
800 000 élèves, hein.
Ah oui. C'est ça, quoi. C'est 800 000 élèves, donc c'est énorme, quoi. Alors, on va essayer de continuer dans le projet. Et d'ailleurs, j'espère que John et Morgan vont reposer des questions parce que j'ai l'impression de monopoliser les questions et de les mettre un peu de côté. Mais, parce que je sais que Morgan avait une série de questions également. Moi, ce que je me demandais, c'est bon, on a parlé du parc informatique, tout ça. Maintenant, en gros, le voyage de Patrick ou de Claude, quand ils arrivent au Bénin, ça se passe comment? Je veux dire, comment vous organisez votre voyage en disant, voilà, il faut qu'on priorise tel ou tel projet ou tel ou tel travail en priorité?
Je te laisse parler, Patrick, ou quoi?
Ben non, c'est plutôt toi, Claude. C'est toi qui gères ce projet là-bas. Moi, je fais que l'assistance technique. et c'est toi qui fais le recadrage, tout ça.
Bon, les projets en ce qui concerne l'informatique, c'est toujours le nombre de salles qu'on va équiper en tant que nouvelle salle, quoi. Bon, après, c'est le reste, évidemment, j'ai d'autres projets avec le handicap, on a aussi les projets des femmes leaders. Après, on distribue aussi notre savoir-faire en termes d'informatique à d'autres structures. Hein. Cette année, on a filé deux ordinateurs et une belle imprimante laser à une pédiatrie qu'on connaît, qui font un super boulot. Dans les savanes, on a équipé aussi deux associations d'handicapés, les femmes leaders. Donc, on équipe au cours par coup de l'informatique à qui on peut aider en équipement de bureau, quoi. Mais par exemple, si cette année je pars, bon, moi j'ai envie de partir, mais non, je pense que d'ici octobre, la situation sera redevenue normale et que les avions accepteront des passagers. Donc je vais repartir mi-octobre. Si mon conteneur est parti, on réalise 3 salles supplémentaires. Hein, de 17 salles informatiques, on veut passer cette année à 20. Hein. Et on s'était fait le petit slogan sympa, 2020, 20 salles de 20 ordinateurs. Et bon, c'est bon, les ordinateurs, on les a. Donc voilà, il y a juste à planifier. Bon, l'Afrique est très inauguratrice. Hein, quand on fait une salle informatique, c'est la fête du village, c'est le chef canton, c'est le chef de village qui est là, c'est les grands salamalecs, c'est les machins, les trucs, les boissons traditionnelles. On se plie à tout ça, on se plie à tout ça avec beaucoup de plaisir. Hein, et donc voilà, donc... Après, il y a aussi le Fab Lab, il y a l'Ortolab, il y a d'autres choses qui viennent de se greffer autour. Donc j'ai un planning quand même. Je planifie, quoi qu'en Afrique, le planning ne résiste pas à
l'improvisation.
Non, il résiste pas, mais il faut quand même l'avoir fait. Et puis bon, à la fin, les lignes elles bougent un peu, et puis on arrive à tout faire avant de rembarquer pour rentrer, quoi. Mais je pars toujours avec un planning qui est aussi empreint parfois de tourisme, hein, parce que bon, faut pas s'abrutir. Jusqu'à maintenant, là, ces dernières années, j'allais là-bas sur mes temps de vacances, moi. Hein. Donc il faut aussi que ça reste plaisant, faut pas que ça soit une corvée.
Je ne rentrerai pas dans le détail, Claude, mais tu m'as dit que tu avais un petit peu plus de temps de loisir maintenant.
Ouais, ouais, c'est vrai, depuis un an, ça déborde du verre, c'est vrai, mais bon, je m'en plains pas du tout. Hein.
ton temps de loisir est bien employé. Alors, ouais. Je vais rebondir un peu sur Patrick. Au niveau mise à jour, comment ça se passe? Parce que, comme tu disais, il n'y a pas de connexion Internet. Donc, est-ce que tu profites du rebond lorsque Claude vient, tu lui envoies tu mets des clés et des ISO sur DVD?
Patrick, t'as vu, il est cool, il fait les questions, les réponses en même temps.
Tout à fait, ouais.
Ah, d'accord. Donc, c'est bien ça, en fait.
C'est exactement ça.
Oui. Quand je vais voir Claude, là, ça va être un peu plus compliqué avec ce satané Covid-19, mais je vais régulièrement à peu près une fois tous les trois mois chez eux. Donc, je leur fournis des mises à jour de leurs clés USB. Après, lui, il en amène là-bas, il fait la mise à jour des clés USB qu'on leur a fournies qui sont sur place. Et par contre, sur les ordinateurs qui sont sur place, on fait zéro mise à jour. Ils ne sont pas connectés à Internet, ils ne risquent rien. Voilà. Quand la mise à jour que l'on fait dans une salle, c'est remplacement de tous les OS et de tous les Wikipédia. Mais sinon, il n'y a pas trop de mise à jour d'une version à l'autre.
Alors par contre, je rebondis sur ce que tu dis. C'est-à-dire que malgré tout, les PC qui ont été installés dans la première salle en 2015, il y a une réinstallation de la nouvelle version des Mabuntu. Je veux dire, quand tu te dis, bon, ça fait quand même 3-4 ans qu'ils ont la même version, on va quand même passer sur la... Parce que tu m'as dit, maintenant vous êtes à la Mabuntu 4, quand ils sont à la 1, les infos du Wikipédia, elles ne sont peut-être pas forcément à jour. Est-ce que ça vaut le coup de refaire une mise à jour vers la 3 ou 4 via une clé USB ou une nouvelle ISO sur un DVD?
Bon, on ne le fait pas. Je l'ai fait quand j'étais sur la version qui était sur Xubuntu, parce que j'ai remis... en état la salle informatique où tout le matériel était un peu dispatché, démantelé et tout ça, à cause de nos amis qui gèrent la salle, je vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais après les salles vous savez sont éloignées. Quand on dit par exemple, et ce qu'il faut voir, c'est que nous on équipe avec Yovo Togo essentiellement et Jump qui font ça, il faut voir qu'on équipe, on fait 25% du Togo en superficie. Donc ça représenterait chez nous l'équivalent de quatre départements. Vous voyez? Donc les salles sont pas forcément à côté. Quand tu as une salle qui est par exemple à 50 km, la salle de Gando, pour y aller, c'est 2 heures de route. D'accord? C'est de la piste.
2h30, monsieur.
Voilà, 2h30, c'est de la piste avec des cailloux qui font bim, bim, bim sur ton châssis toutes les secondes, tu vois. C'est de la piste en gravier, donc voilà. Donc on le fait pas forcément. Donc,
c'est pas la 86 avec le péage de Saint-Arnoux, quoi.
Pas du tout. D'accord.
Donc, c'est très sportif.
D'accord. Après, j'ai une question juste là-dessus. Pour se déplacer, ils font comment? Je veux dire, quand j'étais en Colombie, c'était genre des espèces de 4x4 aménagés, enfin tu sais, des pick-up, et à l'arrière ils collaient des sièges sur là où il y a t'entreposes des trucs.
Ouais, comment eux pour se déplacer sur ces routes? Ça reste à l'arrache. Hein. Nous, pendant pas mal d'années, on bénéficiait d'un véhicule du centre d'handicapés, quoi. Mais bon, le problème africain, c'est que si t'as rendez-vous à 8h, le gars il arrive à 9h, on passait la moitié de notre journée à attendre et on faisait pas la moitié de ce qu'on avait prévu. Et depuis 2 ans, on a acheté un véhicule là-bas au Togo. On a acheté un Pajero, quoi, un petit 4x4 Pajero qui est en à peu près bon état. Et il est remisé à Bumbwaka, au centre d'handicapés, et il y a le mécano qui le fait tourner tous les mois pour qu'il soit en état quand moi j'arrive, quoi. Il a fallu qu'on fasse ça. Donc on a un véhicule à nous maintenant, mais ça reste très sportif, quoi. Si aujourd'hui tu veux partir pour aller, Patrick connaît la situation, hein, Namunjoga par exemple, il faut le prévoir, quoi. On s'en va pas comme ça à l'arrache, quoi.
Puis il n'y a pas d'infrastructure hôtelière ou quoi, si tu t'en vois pas, c'est dans la cambrousse, quoi.
Non, non.
à l'arrache.
Non, non, on
si
a.
Tu vas à l'arrache pour se rendre à.
On a quand même depuis maintenant un téléphone bien garni. On a plein de contacts là-bas. Ouais. J'ai un mécano maintenant qui connaît la voiture, qui connaît ses faiblesses et qui vient en moto aussitôt que je suis emmerdé parce que ça m'arrive. Mais c'est l'Afrique, quoi. C'est un autre monde.
La ville dont vous parliez, c'était quoi déjà? Otawaga?
Bumbwaka.
Bumbwaka. Ouais. Si moi j'arrive à l'improviste dans ce pays et je vais aller à Bumbwaka, tu penses qu'il faudrait combien de temps?
Tu vas atterrir à Lomé. De Lomé, l'idéal c'est de prendre l'écart, hein, les autobus. Et tu montes là-haut, il faut une journée. Tu vas partir à 7h du matin, tu vas arriver dans les alentours de 7h du soir s'il n'y a pas de panne.
Voilà, ouais. Il faut que tu tombes sur un bon bus.
Ouais, sur un bon bus, sur un bon chauffeur.
Ouais, ça m'est arrivé aussi en Bolivie, le bus qui tombe en panne.
Ouais. Après, t'as les taxis brousse, bon, mais c'est d'autres aventures. Taxi brousse, petite anecdote, si on veut rigoler un coup, on était à Saint-Cassé, cette année-là, on devait rentrer par le Burkina Faso, c'était justement l'année où le gouvernement a été renversé, et puis que, d'ailleurs, on est arrivé, l'avion, il a tourné dans le ciel, ils ont fermé l'aéroport devant nous, on s'est tapé 3 jours de plus. Bref, j'en reviens à l'anecdote, donc on était à la frontière, et puis on avait pris les billets pour monter dans un taxi brousse. Puis en regardant les roues du taxi brousse, je dis à ma femme, t'as compté les boulons? Et sur 6 boulons, il y en avait que 2. Sur une roue. Donc on a rendu le billet, puis on a pris un autre véhicule quand même. Parce qu'on...
Ah oui, quand même.
Oui, quand tu vas là-bas, que tu prends les moyens de transport, tu deviens chrétien, hein, croyant.
Ah oui, tu dis... tu te surprends à faire des signes de croix, tu vois. T'as jamais été à la messe, mais d'un seul coup tu fais un signe de croix, tu sais pas pourquoi.
T'as le mécano qui lit un passage de la Bible et qui fait le signe de croix quand il ferme la porte.
Exact.
Ah oui, quand même.
Ah oui, exact.
Et lui, il
tout comme dans la travée centrale, à 5h de l'après-midi, d'un seul coup, t'as un musulman qui sort son tapis du truc à bagages, qui le déroule et puis fait Allah Akbar. Ah, c'est génial.
Mais ils sont musulmans là, ou ils sont
en partie. Voilà, on dérive, hein, on parle.
Il y a les deux religions.
Ouais, ils sont tous animistes, hein, c'est-à-dire qu'ils pratiquent de naissance, ils pratiquent le vaudou, hein, qui est aussi une religion. Hein. Mais après, il y a du christianisme, vient juste derrière, mais vraiment tout juste derrière les musulmans. Puis après, il y a toute une rafale d'églises, de pasteurs, de machins, de trucs.
Ouais, c'est pour ça que quand tu m'as dit que c'était pas loin du Bénin, ça m'étonne pas que tu parles de vaudou, parce que c'est le numéro 1, le vaudou. Hein. Mais bon, c'est le vaudou au Bénin, ça sert aussi pour autre chose, mais c'est un autre sujet. Voilà, j'en parlerai pas ici, ça peut déborder. On va essayer de revenir sur le cœur du projet. Bon, on a parlé des PC.
Ouais, parce que là, on s'est mis en mode touriste, là.
On s'est mis en mode touriste, et c'est peut-être pas le but. Je pense qu'il y a d'autres podcasts qui font ça. Par contre, je voulais revenir sur un autre sujet. On a parlé de ça lors des tests micro, et je voudrais que vous en parliez un peu plus tous les deux. Il y a d'autres projets qui sont tout aussi et peut-être même plus profonds au niveau de l'association. C'est qu'il n'y a pas que les PC, il y a les accessoires. Et notamment les imprimantes. Et je voulais que t'en parles un peu plus parce que il y a quelque chose qui m'a un peu touché là-dedans et je voudrais que tu développes un peu le sujet.
Tu parles des imprimantes lambda, quoi.
Bah après, bon, déjà les imprimantes lambda et peut-être d'autres imprimantes plus tard.
Ouais. Bon, les imprimantes, on a envoyé très peu parce que le problème de l'imprimante, c'est d'avoir la certitude qu'il y a des consommables disponibles au Togo et que ces consommables, quand ils sont disponibles, ne coûtent pas la peau des fesses. Hein, quand t'es dans un pays pauvre et puis que tu dois payer une cartouche 2000 francs CFA, c'est pas
2000 francs CFA, c'est à peu près 2 euros, non?
Un peu plus, 3-4, ouais. Ouais,
ça fait déjà beaucoup.
Ouais. Et donc voilà, on a un frein parce que voilà. Donc là, on a trouvé une solution. On avait trouvé une solution avant, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, Il y a que c'est une relation à Patrick aussi là, qui nous avait trouvé, qui nous a trouvé toujours 12 imprimantes laser réformées, mais en bon état de marche. Et on a eu la certitude que ces tonnerres de laser étaient disponibles à Dapaon au Togo et pour un prix qui est correct. Et on a un des techniciens partenaires là de Jump Laboratory au Fab Lab qui en plus les recharge. Hein, il recharge les tonnerres.
Il les recharge sans forcément passer par du neuf. C'est juste remplir le tonnerre que tu veux dire.
C'est ça même. Voilà, c'est ça même. Hein. Et donc c'est toujours des imprimantes noir et blanc, quoi. Donc vraiment, on voulait en mettre une par établissement parce que ben il y a pas mal d'établissements qui ont des ordinateurs. Si les jeunes veulent imprimer, ils mettent leur travail sur une clé USB, puis ils vont voir le copain qui a l'imprimante pour. Pour imprimer, donc bah on peut pas être partout, hein. Hein. Donc là il y a ce projet imprimante là qui je vais reprendre contact avec ses donateurs. Là, le gars devait même nous les amener en Vendée, donc savoir là que la vie va reprendre son cours, espérons-le. Ça devrait peut-être plus partir cette année, ça va faire short, mais peut-être l'année prochaine. Hein, Patrick, c'était une vingtaine d'imprimantes ou ma mémoire me fait défaut?
On était sur 12 parce que lui avec
12.
Son véhicule, il pouvait pas en prendre plus que 12.
Voilà, c'est ça.
Il y avait je sais plus quoi comme véhicule, un sort de.
Ouais, c'est des imprimantes assez conséquentes, je crois que c'est
du. Ouais, c'est du matériel pro, c'est du gros.
Elles font ouais, c'est kilos, celle qui ressemble à des cubes, là, vous voyez là.
Dans les 20 kilos là.
Ah voilà. Oui, d'accord, ouais. D'accord.
Ah c'est du matériel professionnel.
Ouais. Ah ouais.
C'est incroyable ça.
Après, et je rebondis là-dessus, scanner, tout ça, ils ont besoin ou ça les intéresse pas trop?
Si, mais épisodiquement, le scanner, bon, le Fab Lab, il sait qu'on a participé à le monter, qu'on les a bien aidés à le monter. Il est au cœur du ce qu'on appelle le CRETFP, c'est Collège Régional d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle. Donc ça, c'est un établissement d'État qui nous ont mis au début, ils voulaient nous mettre à disposition une salle. Puis quand ils ont vu quand même les engagements qu'on prenait, ils nous ont mis à disposition tout un bâtiment même. Hein. On a 3 salles, dont 2 qui sont climatisées. Et donc on est là-bas et donc pour drainer de la jeunesse dans le Fab Lab, pour que les jeunes viennent découvrir un peu le potentiel de ce qu'on fait, ils ont créé un atelier documentation, sachant que les jeunes ils payent beaucoup d'argent de poche pour faire des photocopies de leurs cours ou de leurs bouquins dans ces pays-là. Sur 40 élèves dans une classe, il n'y a pas 40 livres, hein. Bien souvent il y a 10 bouquins, il y en a 10 qui ont le bouquin, puis les autres ils copient. Donc voilà, on a monté avec avec quand même du matériel professionnel. Hein. Il y avait un gars, une boîte ici sur le Bon Coin. Il mettait à vendre, il mettait la clé sous la porte. Il vendait ses photocopieurs, des trucs comme ça, des massicots, des agrafeuses, les machins, vous savez, pour faire des torsades, là, pour faire des reliures.
Le cauchemar de beaucoup de lycées. Hein.
Ouais. Et donc, ils ont créé, le premier truc qu'ils ont créé là-bas, c'est un petit atelier documentation qui fonctionne très bien. Il n'y a pas une heure où il n'y a pas des gamins qui viennent. Et puis, bon, bah après, ils s'inscrivent pour des cours d'informatique, pour ceci, pour cela. Donc, c'est très porteur. Et à la suite de ça, bon, il faut qu'on en parle aussi. On en avait parlé hier. On s'est trouvé à participer avec des orthoprothésistes belges. Donc à la création d'un ortholab, c'est-à-dire avec des imprimantes 3D, ils projettent de réaliser des prothèses pour les handicapés. Avec un scanner manuel, je ne sais plus quelle est la marque, d'ailleurs c'est du matériel libre parce que le logiciel qui permet de mettre en œuvre ça, c'est un logiciel libre.
Pour les imprimantes, oui, mais pas le scanner. C'est du Dassault, je crois, le scanner.
Ah d'accord, ok, merci de me reprendre. Et donc, ils scannent les moignons, ils mettent ça sur ils numérisent, quoi. Et ils fabriquent la pièce avec l'épaisseur, avec... Et donc ça c'est en route. Bon, ça rame un peu parce que c'est pas le tout, quoi. Il faut quand même que les orthoprothésistes ils s'y mettent, il y a des choses à comprendre, il y a de l'expérimentation et tout. Là, en ce moment, on a 10 prothèses qui sont en cours d'élaboration. Mais l'orthoprothésiste qu'on a pu trouver, qui veut bien jouer cette aventure et ouvrir son esprit, puis découvrir tout un domaine qu'il ne connaît pas, c'est un Béninois qui vient de Tanguieta, donc le gars, il fait gros pire, quoi. Hein, il va venir réaliser ses scans pour les 10 en même temps, ceci, cela, et puis ils ont été touchés par le Covid-19 aussi. Donc voilà, ça patauge un peu dans la semoule, on sait qu'on y arrivera, mais... ça patauge, c'est pas aussi facile qu'on pensait au début, mais voilà quoi.
Est-ce que cette association, c'est Enable?
Non, Enable, ils démarrent, ils se sont mis à Enable, ils ont fabriqué une main. Enable fait surtout des bras et des mains, hein. C'est une belle association. Donc ils ont imprimé, je sais pas si t'étais au courant, Patrick, Jacques.
Oui, j'ai vu sur Internet.
Voilà, t'as vu sur Internet. Il a imprimé la main. Je lui avais dit de me tenir au courant s'il l'avait assemblé. J'ai pas une nouvelle, faut que je lui redemande. Donc voilà. Bon, Enable, ils expérimentent. Mais c'est pas trop, on n'est pas dans la culture, là. Je réponds précisément, avec précision sur Enable, parce que, bon, aussi bien un gamin qui par malheur n'a pas de main, n'en a jamais eu ou n'en a plus, va s'approprier une main artificielle telle que Enable les font, avec le logo de son Superman ou de son héros favori, aussi bien le gosse va en être fier, puis ils vont faire un objet de différenciation de ses autres copains, hein, au point où certains de ses copains seraient presque jaloux de ne pas en avoir une aussi, hein. C'est pas des bêtises ce que je dis, mais c'est un peu ça chez nous. Aussi bien en Afrique, non, le membre joué n'existe pas, quoi. Hein. En Afrique, il faut que la fausse main soit noire, il faut qu'elle se voie le moins possible. Et... Donc il y a une approche qui est complètement différente. Et au début, l'orthoprothésiste belge m'avait dit Enable ne marchera jamais au Togo. J'ai dit oh tu déconnes. Enfin je lui ai même pas dit, je me serais pas permis, mais je l'ai pensé très fort. Et puis en voyant, je me dis qu'il a pas tort. Tout compte fait, il avait raison. Il avait raison, voilà.
D'accord, bah écoute, on va espérer que ce nouveau projet se lance, et je pense qu'on va rebondir un peu plus sur la partie un peu technique de Imabuntu avant de conclure cet épisode, parce que je sais que Morgan avait une petite série de questions, et j'espère que John se réintégrera dans la conversation, parce qu'il fait un peu l'invité cosy dans le fauteuil, mais bon, ce serait bien qu'il interagisse avec nous. Et je sais que Morgan avait pas mal de questions à ce sujet, ou même John, si t'as des questions avant qu'on enchaîne sur d'autres sujets, n'hésite pas.
Oui. Alors j'ai un peu parce que j'ai perdu un petit fil à un moment, donc peut-être que ça a déjà été posé par Morgan, parce que je sais que ça l'intéresse aussi. Si vous avez des retours par rapport au pourcentage de garçons-filles qui utilisent les ordinateurs, et pour avoir le nombre à peu près comme ça, faire une idée si par rapport à, on va dire, aux habitudes européennes et tout ce qui vient d'Amérique, etc., où les femmes sont en minorité dans l'informatique en général, et aussi je sais pas si ça a été précisé aussi ou pas, c'est le avec les initiatives comme ça, genre je pense à... j'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était des barils qui servaient de... En tant que case d'ordinateur.
Des jerry.
Oui.
Tout à fait.
C'est ça. Et justement, l'avantage est qu'on voit pas beaucoup... en tout cas, qu'on n'entend pas beaucoup parler en Europe. C'est le fait que... je pense que ça doit se passer pareil au Togo, c'est que du coup, quand des classes, des salles sont ouvertes comme ça, ou même le Fab Lab, c'est que ce n'est pas tout que les enfants et les élèves qui viennent, mais du coup, il y a les parents aussi et la famille qui se regroupent un peu comme ils font pour les histoires, etc. Sauf que là, c'est l'enfant qui montre ce qu'il a appris à faire avec l'ordinateur, et du coup, qui apprend à son tour aux autres, et qui a une forme de roue, en fait, où il a ce qu'il a appris aujourd'hui, ce que l'enfant a appris ou l'adolescent a appris la matinée, l'après-midi, il l'enseigne à ses parents et à ses proches. Enfin, à ses proches directs. Il y a le fait de la roue de vertuosité. Non, je sais plus le terme exact.
L'enivrement.
Oui, c'est ça.
L'engouement.
Ok, je vais essayer de répondre à toutes tes questions, John. Concernant la répartition des filles et des garçons, je pense que tu parles dans les lycées-collèges au Togo. C'est bien.
Oui, en fait, parce que avec cette association-là, vous n'obligez, il y a personne qui est obligé de venir. C'est sous leur démarche à eux, si j'ai bien compris.
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que dans les salles informatiques qu'on a mis en place dans les lycées et collèges au Togo, pour l'instant, mais ça change, les cours d'informatique sont optionnels, quoi. D'aller dans la salle informatique, c'est optionnel. Et Claude, n'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises, sont optionnels.
Mais dans certains
collèges, ils ont mis au programme, c'est ça ?
Ça reste majoritairement optionnel, mais de plus en plus, ils ont créé un COEF dans les examens et un coefficient un peu comme des options sport chez nous, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et il y a deux lycées-collèges qui ont fait le, comment dire, le, en ont fait, pardon, une matière, une véritable matière, quoi. Voilà. Donc ça progresse.
Alors, par contre, sur la répartition des garçons et des filles, moi, je ne la connais pas. Mais quand je suis allé là-bas, il y avait quand même pas mal de filles qui étaient intéressées par l'informatique, il me semble.
Ouais, il y a une grosse volonté. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire concernant la gente féminine, hein, pour la sortir du simple rôle de aide ménagère à maman. Il y a encore des gros efforts à faire, mais les efforts qui sont faits sont vraiment visibles, hein, donc je crois que c'est en bonne route. Et en ce qui concerne l'informatique, on était même surpris. Ça, c'était dans une des deux salles de Cara, les dernières qu'on a faites, où il y avait vraiment la mixité, autant de filles que de garçons.
D'accord. Après pour ce qui est donc les gens, ce qu'ils expérimentent, est-ce qu'ils le ramènent chez eux? Je pense pas, parce que chez eux ils n'ont pas d'ordinateur. Le taux de pénétration de l'informatique au Nord Togo est vraiment très très faible. On trouve des smartphones, pas mal de gens ont des smartphones, donc d'autres ont des téléphones classiques, mais des ordinateurs portables, c'est vraiment une minorité le nombre de gens qui ont des ordinateurs portables ou des ordinateurs chez eux. Même les institutions dont Claude parlait tout à l'heure n'ont rien, quoi. Même pour leur informatique, pour leur bureautique, il n'y a rien. Là, dans le CRETFP, je ne sais pas le matériel informatique qu'ils avaient avant qu'on amène, mais je ne sais même pas s'ils avaient un ordinateur au CRETFP. Tu me confirmes, Claude?
Non. Je crois qu'on l'a un petit peu perdu.
Je ne sais pas. Bon.
Donc, oui, voilà. J'avais bien compris. Je connais un petit peu la situation. Je voulais préciser vraiment dans la salle en elle-même, en fait.
Dans la salle, moi, quand j'y suis allé, je n'ai pas fait de
non, non, non.
Des inaugurations, en fait. On n'a pas assisté au cours. Là, Claude, il va plus souvent que moi, il pourrait vous dire, quoi.
Ouais, non, non, les gamins ne ramènent pas la famille ou le village. C'est pas habituel là où je me balade.
Alors, j'ai juste une petite question. John, excuse-moi de te couper. Après, je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, toi et John, parce que c'est une dernière question qui me revient en vie comme ça. Vous parliez de smartphone. Justement, est-ce que le réseau mobile permet d'avoir de la 3 ou 4G là-bas? Et si possible, faire un partage de connexion vers un PC fixe?
Ouais, ouais. Ouais, bien souvent, moi, quand je suis là-bas, même avec mon portable, je me connecte à la 4G et je coche le point d'accès, quoi, sur le portable, et je me sers du portable pour me connecter à Internet. Et là-bas, les connexions sont vraiment pitoyables, quoi. Je mets mon site internet à jour depuis le Togo bien souvent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, et tu te retrouves pendant 5 minutes à voir le truc tourner pour charger une photo, puis au moment où ça va pas, endroits où ils te shootent, quoi. C'est à s'arracher les cheveux, quoi. Quand nous, on a l'habitude, hein, t'as à peine appuyé sur la touche que tout marche tout de suite, et là-bas, c'est... Donc voilà, et ils sont... Ouais, il y a des trucs innovants, mais c'est toujours le réseau, il y en a plus. Sitôt qu'il y a un mouvement un peu politique, l'État coupe tout le réseau Internet, alors c'est... Voilà.
Et le satellitaire, ça pourrait être une possibilité ou pas ?
Bah bien sûr, ça peut toujours être une possibilité, hein, le satellitaire, mais là où la possibilité n'en est plus une, c'est que ça coûte la peau des fesses, quoi.
Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Déjà en France, ça coûte une blinde, mais là-bas, ça doit être
un budget. Rien que d'y penser, ça coûte cher.
Je suis d'accord avec toi. Bon, je vais laisser John et Morgan poser toutes leurs questions, parce que je sais que Morgan avait encore plein de questions plus techniques sur Imubuntu, et je voudrais pas le frustrer avant qu'on clôture l'épisode. Donc, n'hésitez pas, John et Morgan. Moi, je vous laisse l'antenne.
Sinon, on fait une deuxième émission.
Ah ouais, au cas où, au pire des cas, s'ils ont pas de questions sous la main, mais bon, je pense qu'ils en ont quelques-unes avant qu'on conclue.
Ah, bon, bah je prends la main, parce que Morgan n'a pas été assez rapide. Bah merci pour ces réponses, déjà. C'est intéressant. Et je pensais, est-ce que, quand vous parliez du hackerspace, non, c'était pas le terme exact, mais...
Le Fab Lab.
Oui. Celui-ci sera ouvert sous quelle licence MIT ou bien il a le nom Fab Lab pour que les gens comprennent ce qui va être fait à l'intérieur. Mais
ouais, parce qu'il y a un label Fab Lab et puis il y a les gens qui s'appellent Fab Lab.
Ouais, là on est loin de tout ça, hein, autant le dire. Hein. On l'a appelé Fab Lab parce que si on l'avait appelé boucherie, ça aurait été mensonger aussi. Hein. Il fallait bien lui trouver un nom. Non, mais l'esprit est respecté, mais après faut africaniser tout ça. Hein. Là aujourd'hui, le Fab Lab, c'est une superbe salle informatique, c'est l'Ortholab qui est ajouté. On a créé un atelier couture avec une brodeuse numérique qu'on a amenée il y a 2 ans. Donc après il y a un atelier électronique où il bidouille avec des cartes Arduino, des trucs comme ça. Il manque encore un truc, l'atelier documentation là, qui est en expansion. Puis bon, voilà, maintenant, ils le font fonctionner en fonction des événements. Par exemple, en ce moment, ils sont en train de fabriquer des masques avec l'atelier couture pour des gamins nécessiteux et choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec un Fab Lab tel que nous on le connaît en France, effectivement.
Oui, en fait, c'était pour le système d'entrée d'accès pour eux là-bas. Le Fab Lab. Après, je me doute bien que qu'il faut mettre en contexte, en fait, qu'on soit au Togo et pas.
Voilà, c'est ça. On est allé voir le premier Fab Lab du Togo avec Patrick qui était à Lomé. Il n'a pas grand chose à envier à ce qu'on a fait maintenant depuis 3 ans. Hein, Patrick?
Non, il n'a pas grand-chose à envier. Par contre, ils ont des hackers, donc ils développent plus.
Ouais.
Donc, voilà. Mais bon, là, ce que l'on a fait, il fallait que pour avoir l'aide de l'Ortholab et avoir les imprimantes de l'Ortholab, il fallait qu'on mette à côté une structure Fab Lab qu'on a essayé de mettre en place. Pour l'instant, elle fonctionne pas super. Il faut que ça démarre, il faut que ça prenne. Ils peuvent pas passer du jour au lendemain de zéro structure à une structure comme celle-là. Déjà, bon, elle est bien implantée. On a eu l'autorisation de l'éducation nationale pour nous fournir la salle. Elle démarre, quoi. Mais,
ouais, voilà.
Pas encore de grands résultats.
Voilà. Non, mais ce que dit Patrick et ce que tu dis, c'est bon, quoi. Il y a quand même noir sur blanc l'autorisation du ministre de l'éducation qui laisse une salle à demeure pour nos projets. voilà, disons que le Fab Lab boite, mais il boite bien, quoi. Pour moi, ça me va. À la date d'aujourd'hui, ça me va, comme dit Patrick, faut pas être trop, faut laisser le temps au temps.
Ça va dans la pente ascendante plutôt que la descendante, on va dire.
Exactement, voilà. Non, mais ça va.
Il faut que ça se, mette en place. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'équipe Jump Lab Orion, ils doivent superviser ils doivent s'occuper des salles informatiques, s'occuper du Fab Lab, de l'Ortholab. Donc, il faut que l'équipe grossisse et monte en personne. À l'heure actuelle, ils sont pas assez pour gérer tout ça, tout le patrimoine qu'on leur a donné, quoi. Voilà. Donc, il y a 450 ordinateurs, donc, 17 salles informatiques, 2 imprimantes 3D professionnelles, elles valent 2500 à 3000 euros pièce. Nous, des imprimantes qu'on a amenées, des imprimantes de test, voilà. En 3 ans, ils sont passés de rien à tout ça, quoi. Voilà.
Vas-y, Et ils sont d'un bénévolat qui n'est pas comme le nôtre, hein. Nous, on est bénévoles, mais on a tous un métier alimentaire, au minimum, hein. Et eux, c'est pas le cas. Il y en a qui ont même pas de boulot et qui sont là-bas, quoi. Et les petits bénéfices que le Fab Lab dégage, bien souvent, Yobé, le pilier du système, dédommage un peu 2-3 pleins de motos à celui qui est toujours prêt à venir aider ou ceci, cela, quoi. Bon, c'est... Voilà, faut oublier la notion de Fab Lab chez nous, quoi. Et pour autant, faut pas l'appeler autrement, quoi. Ça serait dénigrer leur potentiel, dénigrer leur, voilà, tout va très bien comme ça.
Bah, de ce que j'en écoute, en tout cas, oui. Et puis, il y a l'aspect principal pourquoi ils ont été créés, les Fab Labs, c'est le partage.
Après, voilà. Ça, il y a le partage.
La suite de licence ou pas, d'un côté, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'était juste histoire d'arrêter. Et c'est vrai que ça fait plaisir.
Pour l'instant, ils ne créent pas des choses. Quoi. Si tu veux, ils n'ont pas créé des choses. Le but, c'est de par ce Fab Lab, d'avoir des personnes qui se forment pour pouvoir derrière reprendre la relève et faire des prothèses, créer des choses. On a des projets là-bas de création, mais pour l'instant on n'a pas les personnes pour gérer tout cela.
Il y a de la création quand même, c'est de la création personnelle.
Oui, voilà.
C'est pas du matériel, c'est bien plus important, c'est le partage de connaissances.
Voilà, ce centre, c'est pour appuyer notre centre de formation. Voilà. On veut en faire un centre de
formation. Ah ouais, alors, et...
Oui, Claude ?
Ouais, je savais plus si j'étais muet ou sonorisé. Et oui, tout à l'heure tu m'as tendu la perche et je l'ai pas chopé, mais vite fait. Et puis après je vous laisse pour l'aspect technique. Hein. On a quand même créé 13 emplois là-bas avec ça, parce que chacune de nos salles sont gérées par un gars qui est responsable de la salle. Ils ont créé un groupe WhatsApp où celui qui est responsable de sa salle sait qui prévenir s'il y a un écran qui est HS. Comme ça, le gars, dès qu'il revient dans le coin, dans le secteur, il sait qu'il a un écran à prendre pour la maintenance, pour que les salles tournent toujours au maximum. Et bien souvent, dans les 3/4 des salles, c'est ce responsable qui est aussi formateur. Parce que Jump et AFO en particulier, le maintenancier, il assure la formation de 3-4 personnes à chaque fois qu'on crée une nouvelle salle. Ce qui fait que quand on a créé la nouvelle salle, dans la semaine ou le mois qui suit, il y a une personne qui est capable de prendre en charge 20 gosses pour leur donner un premier cours d'informatique sur les répertoires, sur des choses très basiques. Mais voilà. Donc cette personne-là est payée par toujours le fameux pot commun familial, hein, par le biais des associations de parents d'élèves. Et donc on a créé quand même 13 emplois. Donc on en est, et dans les 13 emplois, il y en a 4 que ce sont des femmes. Donc on est quand même, on s'applaudit nous-mêmes parce que c'est quand même génial. Voilà ce que je voulais préciser.
Ah, c'est déjà pas mal, hein.
C'est très
honorable, puis pour une association qui est externe au pays en plus. Moi, franchement, toute mon admiration, je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. J'ai vu les lèvres de DK s'allumer sur le même bug. Je vais te laisser.
Bah non, mais moi je suis bluffé depuis tout à l'heure, moi. Donc voilà, moi je me sens tout petit par rapport à tout ça. Et je sais que Morgan a plein de petites questions sur Emma Buntu, et je voudrais bien qu'il en pose quelques-unes avant qu'on...
Ça y est, moi je me mets en rouge.
Ah bah, il l'a fait absolument rapidement.
Bois une petite gorgée.
Vas-y,
c'est moi
Morgan,
qui passe sur le bio.
Voilà, je sais que t'as plein de petites questions sur le sur Imabuntu et tout ça, parce que je sais que Patrick avait d'autres projets en parallèle tout ça, donc c'est peut-être le moment d'en parler. Et toi, Morgan, t'as plein de petits aspects un peu plus techniques à développer, donc je voudrais que tu prennes un peu le relais avec John pour que vous parliez un peu de tout ça.
Ouais, tu faut pas te démuter encore trop vite, Claude. En fait, j'avais encore juste des petites questions, mais en fait, on a abordé un peu tout. Du coup, je vais essayer de changer un peu le truc. Aller mettre de l'informatique dans les écoles, c'est une opportunité qui s'est présentée à vous. Déjà, vous l'avez saisi. Vous avez fait ça par conviction, genre de promouvoir le libre ou comme ça ou...
Ah ouais.
C'était quoi la...
Ouais,
la
alors il y a un détail. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, la veille de connaître Patrick, le libre, je sais pas ce que c'était.
Ah ouais.
Tu l'as scotché.
Et le libre, je savais pas du tout. J'ai découvert ce monde-là en connaissant Patrick, moi. Moi, je suis un opportuniste. Hein. J'ai trouvé des ordinateurs, je les envoie au Togo. On me présente par l'intermédiaire de quelqu'un qui fait des logiciels, qui ceci, cela. Je dis oui, on met dedans, je fais. Je contacte quelqu'un que je connais au Togo qui me dit oui et on fait. Et l'aventure s'est créée comme ça. Si je devais, parmi les auditeurs de ce soir, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait vivre une superbe aventure comme celle-là, parce que c'est une superbe aventure, je dirais mets ton pied droit devant, puis le pied gauche il ira, et puis vas-y, roule, ça se fera. Hein. Faut être hyper optimiste, hyper positif. Hein. Donc voilà, c'est donc moi il n'y avait pas d'intention de développer le libre de tout, ça s'est fait en allant que je le faisais, enfin qu'on le faisait avec Patrick, quoi. Mais moi, pour ma partie togolaise, ça s'est fait comme ça, quoi. Il n'y avait pas d'intention de développer le libre. C'est aujourd'hui que je peux affirmer haut et fort que le libre, c'est quelque chose de magique sur un plan humanitaire pour les pays en voie de développement, quoi. Parce que c'est des outils accessibles, qu'on peut se recopier, qui sont gratuits, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est déjà le premier critère intéressant. Donc aujourd'hui, mon expérience partagée avec Patrick fait que je peux prétendre ça et dire pourquoi. Mais dans le rétroviseur de ma vie, si je regarde 4 ans ou 5 ans en arrière, je savais même pas que j'allais vivre ça. Alors bon, voilà, j'ai tout dit, je crois.
Et toi, Patrick, c'était par conviction du logiciel libre ?
Alors moi, tout à fait, c'était par conviction du logiciel libre. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'utilisais déjà Ubuntu depuis 3-4 ans chez moi, on va dire plutôt 2 ans, et donc c'était par conviction pour le logiciel libre. J'aurais pu faire la même chose sur Windows. Mais parce qu'au début, les versions qu'on livrait à Emmaüs, à Neuilly-Plaisance, en fait, on avait mis des logiciels libres qui tournaient sur Windows, mais je préférais la philosophie du logiciel libre.
Ok. On a évoqué que vous avez eu un partenariat avec le moteur de recherche Lilo. Est-ce que vous pouvez dire plus un petit peu, vous aviez dit qu'ils vous avaient contacté, qu'eux ils s'en servaient pour faire des sous, faire de l'humanitaire. Comment ça s'est goupillé cette histoire du coup?
En fait, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. C'est moi qui ai rencontré Marc de Lilo, l'un des fondateurs du moteur de recherche lors d'une conférence en région parisienne. Donc j'ai écouté sa conférence et puis après je suis allé le voir. Après il y avait un petit pot et donc j'ai discuté avec lui, j'ai expliqué ce qu'était Mabuntu et il m'a tout de suite dit « Ah, je veux que vous soyez sur Lilo ». Voilà. Et donc c'est parti comme ça. Et après donc on a eu des discussions en interne parce que certains pensent chez nous que l'argent collecté c'est sale, surtout quand ça vient par derrière de Google et consorts, et voilà, donc ça a pris un peu de temps, mais avec cet argent là que l'on a collecté, on a pu aider les projets au Togo, donc on finance à...
C'est Google tiers. Qui vous paye?
Ben oui, c'est la pub d'une part, c'est la pub qui paye Lilo, mais Lilo utilise Google derrière, c'est un métamoteur Lilo, voilà. Ils utilisent soit Google, soit Bing, et ils reversent 5% de leurs revenus comme pour utiliser ces structures-là. Ouais.
Donc, et c'est aussi performant qu'un Wurl.
Je viens de mettre le lien du projet Lilo sur Wolframa.
Alors, c'est aussi performant pour un débutant qui ne sait pas utiliser bien Google, c'est aussi performant. Malgré que le filtrage soit pas le même, parce que pour utiliser Google, Lilo se présente comme Lilo, donc ils savent d'où ça vient. Hein. De toute façon, ils surveillent tous les gens qui interrogent leur moteur de recherche. Donc c'est pour ça qu'ils payent 5% de leurs revenus qu'ils donnent à Google. Et il n'y a pas exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que la recherche, si vous utilisez, moi j'utilise souvent la recherche 24 heures sur Google, ne fonctionne pas aussi bien. Mais après, pour un débutant, ça fonctionne bien. Je vais pas dire faire de la comparaison avec d'autres moteurs de recherche, mais ça fonctionne pas mal. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi sur ces critères-là. On a aussi discuté avec eux, on leur a demandé une démarche de leur part, c'est-à-dire d'installer dans le moteur de recherche 3 langues supplémentaires, parce qu'au départ ils avaient que l'anglais, l'espagnol et le français, et on leur a dit non, nous et Mabounty, si on prend votre moteur de recherche, il faut 3 langues supplémentaires qui sont l'italien, le portugais et l'allemand, que nous supportons en standard dans nos distributions, et ils l'ont fait, et donc on a pris ce moteur de recherche. Donc ils ont fait un effort, maintenant ils ont toutes les langues, ils ont rajouté toutes les langues à leur moteur de recherche.
Mais en parlant de ça, justement, j'avais vu ça, les langues, mais je vais en parler dans l'aspect un peu technique après, mais je vais en parler tout de suite. J'ai vu que c'était beaucoup l'anglais, l'espagnol et le français. Et oui. 3 langues de la distribution Mabuntu.
On en a 6. Au niveau du doc, ils sont pris en charge au niveau du doc qu'on a traduit. Après les autres, on les a pas traduits au niveau du doc, et on n'a pas fait des docs spécifiques pour les autres langues parce qu'on n'a pas de traducteur. Mais on a notre doc, qui est Kerodoc. Il est décliné en 3 versions, donc débutant, expert et puis enfant, et en 7 langues, parce qu'on a l'arabe en plus, que quelqu'un nous a traduit l'arabe. On l'a pas intégré dans le reste, voilà.
D'accord. Et donc, espagnol, c'est utilisé par... vous avez une...
On avait une bonne visibilité au niveau des pays hispanophobes, au tout début avec les versions Ubuntu. Avec la version Debian, ça s'est un petit peu effrité au niveau de notre retombée sur les pays hispanophobes. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on avait plus de visibilité avec les versions basées sur Ubuntu.
D'accord.
Donc là, on n'a plus trop de contact avec des personnes en espagnol. Et puis là, avec la refonte de notre nouveau site, avant on avait un site, un wiki, un blog d'un côté et un forum de l'autre. Là, on a essayé de tout unifier au niveau du blog et du wiki. Et on a supprimé les traductions dans l'espagnol. On faisait aussi, quand on sortait des annonces, on faisait français, anglais, espagnol. Depuis quelque temps, on avait du mal à avoir la traduction correcte en espagnol. Et donc, on a supprimé l'espagnol. Donc, on sort que nos annonces maintenant en français et anglais. Ouais. Et nos docs sont français, anglais. Alors, on est obligé d'avoir les docs. Nous sommes obligés d'avoir les docs en anglais. Parce que, au niveau de notre visibilité à l'international, on est trop tagué, je vais dire, Frenchy, d'accord. Donc on a une perte de visibilité à cause de ça, on a essayé de changer un petit peu. Et là, avec notre nouveau site, on a plus de retours. Là, on va le publier dans quelques jours, on a eu l'aval aujourd'hui. On a été classé parmi l'une des meilleures distributions alternatives en version 32 bits comparé à 5 autres distributions alternatives. Voilà. Sur un magazine qui s'appelle, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Linux Format. C'est le plus vieux magazine sur Linux anglais.
Voilà. Chapeau.
Voilà. Donc on a l'article qui est sur notre blog, on l'a pas encore mis en visibilité, il est visible, mais bon, on l'a pas relié à notre site. Donc on termine numéro 1 de leur classement. Et par rapport à des distributions qui sont classées bien meilleures que nous sur le site qui est très connu qui s'appelle DistroWatch. Mais on a encore le côté trop français, le nom et Mabuntu, ça déstabilise beaucoup de gens, mais nous on ne changera pas sur ce point de vue là, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau de notre coordination, et voilà, mais c'est tout.
Ouais, parce que là du coup, on va passer un peu, on va glisser un petit peu sur les techniques.
Oui.
Vu le nom Emmaubuntu, on imagine bien que c'est la contraction d'Emmaüs et
ah
de
oui,
Ubuntu.
C'est tout à fait ça. C'est le départ de notre projet quand on a lancé le projet avec quatre autres personnes. Donc David dont on a parlé, Hervé aussi qui fait du reconditionnement, deux autres personnes qui ne sont plus là, mais sur les cinq, il y en a toujours trois qui sont sur le projet. On était beaucoup liés avec Emmaüs, en particulier moi, et donc on a pris le nom mélange entre Ubuntu, qui était notre base, et Emmaüs, et on a trouvé Emmaubuntu, on a trouvé que le nom était original, et c'est comme ça qu'on a choisi ce nom-là. Après, il nous a beaucoup marqué ce nom, et après, quand nous avons basculé sur les versions Debian, à l'heure actuelle, on n'a plus que des versions Debian. On a rajouté Debian Edition au nom de notre version pour les distinguer, mais on n'a pas trouvé de nom assez sympa pour changer quoi. Voilà. Peut-être qu'un jour on le fera.
Emmabian.
Oui, mais ça.
Je pense que justement, ça serait mieux plus qu'ils basent leur nom sur une distribution. C'est le prochain changement.
Voilà. Donc après, il y en a qui avaient proposé d'autres noms. Ils avaient proposé. C'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil. Tous les gens ne comprennent pas. Sur notre fond d'écran, on a marqué Linux for All. Un blogueur nous avait dit, je crois que c'est Cyril Bourne, un blogueur qui était assez caustique, mais qui nous aimait bien à une époque. Il avait dit Linux for All. C'est pour ça qu'on l'a mis. J'espère qu'il a compris le clin d'œil. Mais on trouvait ça un petit peu prétentieux de mettre ce type de nom à notre distribution. Donc, et après, faire Clémentine Linux, voilà, ça fait un peu déjà utilisé, quoi. Oui. Ou Red Linux, ça fait un peu trop engagé.
Communiste.
Red Star OS.
Voilà. Donc on n'arrive pas pour l'instant à trouver de nom. Et puis le jour où on changera, ça sera compliqué. Parce que ça demandera beaucoup de boulot juste pour changer le nom de domaine, tous les serveurs, tout ça. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc là, on vient de refaire un site tout neuf. Avec l'association WebAsso, Jean-Luc, que je remercie de nous avoir aidé pour cette transition. Donc on a un site tout neuf, avec traduction automatique dans beaucoup de langues, sauf l'anglais où on a des articles qui sont tagués anglais et donc qui ne sont pas traduits, qui sont traduction manuelle. Par Yves, que je remercie aussi, qui est un de nos membres de notre collectif qui fait beaucoup de traductions pour nous. C'est d'ailleurs grâce à la documentation que l'on sort en tête, en gros, de ce comparatif, quoi. Parce que si on n'avait pas eu la traduction, c'est sur des toutes petites différences, quoi. Donc si on n'avait pas eu la traduction 100% anglaise de tous nos tutoriels que l'on retrouve sur notre site en version PDF, par contre ils sont traduits en automatique de français à anglais pour ceux qui vont sur le site. On n'a pas fait les doubles copies parce que ça fait trop de boulot, 60 pages par tutoriel, il y en a 4, ça fait trop de boulot. On n'aurait pas fini sur ce classement. Oui.
Donc, comment vous gérez votre traduction ?
Comment ?
Comment vous gérez votre traduction pour votre site ?
La traduction, malheureusement, c'est un plugin de chez Google. Malheureusement.
Google Translate.
C'est Google Translate qui doit être derrière. Hein. Si vous allez sur notre site, emmaubuntu.org, il y a un bandeau en haut où on peut sélectionner. Théoriquement, quand on arrive avec un navigateur qui est estampillé anglais, il bascule automatiquement en anglais, mais on peut le. Sur le sélecteur, on peut le sélectionner. Donc, on a mis un certain nombre de langues. Pas toutes, parce que sinon, ça fait trop usine à gaz. Et donc, on peut le sélectionner.
D'accord.
C'est un plugin de.
Ce que j'avais vu,
WordPress, qui est dans
WordPress. Framasoft, ce qu'il faisait, enfin, bon, un temps, je participais, il postait un lien vers un genre blog, un truc comme ça. Mais il y avait un système de review. Et les gens, ils traduisaient en live, comme ça. Et on était plusieurs, on se partageait l'article en plein de petites parties, là. Puis à la fin, bon, ceux qui étaient le meilleur, je les laissais reviewer la cohérence globale et genre en une heure, ils avaient une traduction. Hein. Franchement, ça
fonctionne. Oui, mais nous, on n'a pas des gens qui nous aident forcément. Puis après, il faut le monter, il faut la mise en page. C'est beaucoup de boulot, quoi. D'accord. Donc il faut avoir là. Non, on n'a pas. C'est moi qui ai remis à plat le site, quoi. On n'a pas de développeur web pour faire ça, quoi. Donc au début, ils étaient pourris nos sites. Maintenant, j'en trouve que c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, Claude? Donc voilà, mais on n'a pas de personne attitrée pour la partie site, quoi. Donc on chercherait bien sûr quelqu'un. Bon, maintenant plus besoin puisqu'on a quelque chose qui tient un peu la route, qui fait moins old school, on va dire, hein, que le wiki. Au départ, j'étais parti sur une base wiki. Et c'est pas terrible pour maintenir, quoi. Ça me demande beaucoup trop de boulot. C'est pas notre but, le site.
C'est juste une vitrine.
D'ailleurs, c'était ma toute première question. Votre site, justement, j'ai regardé, j'ai pas trouvé par quoi c'est propulsé, quel CMS, quel machin. C'est un truc fait maison, c'est...
C'est du WordPress.
Ah, c'est un WordPress.
Ouais.
D'accord, ok.
On peut pas le voir, on a mis quelqu'un, Patrice Andréani, un blogueur qui nous suit depuis très longtemps, que je remercie, m'a incité à mettre un plugin de protection, c'est Fortnox maintenant. Donc même quand on a publié la version Ubuntu 2.4.
Comment il s'appelle ? C'est super intéressant ça. Comment il s'appelle ce plugin ?
Le plugin, je pourrais le trouver, je ne sais pas de tête. C'est un truc pour sécuriser son site qui enlève.
Bah ouais, tous les robots. Nous, tous nos problèmes de bout qu'on a sur les commentaires, quoi, qu'on installe ça.
Ouais, ben ça, je vous le donnerai. Il faut que je me connecte. Et c'est Fortnox. Et j'avais tellement verrouillé, on pouvait pas faire de copier-coller de contenu de nos pages. J'avais tellement verrouillé de partout. Et Jesse de DistroWatch, quand je lui dis, bon, on a sorti la nouvelle version alpha et tout, il m'écrit en disant, bon, je t'ai fait l'annonce là, mais je te signale qu'on peut pas copier sur ton site. Je dis, oh merde. Donc voilà, donc j'avais tout verrouillé. Donc là, on a un peu ouvert, on peut faire des copier-coller de nos pages. C'est vrai que les gens qui voulaient reprendre des parties de notre annonce pour faire leur annonce, ça leur faisait énormément de boulot, ils devaient tout refaire à la main, quoi. Donc voilà. Donc c'est un plugin, ouais, qui surveille, au bout de 3 tentatives, ça te bloque l'adresse IP. Voilà, l'autre jour, Yves, il a fait un article, il s'est fait bloquer son adresse IP, j'ai dû la mettre en liste blanche, j'ai passé une demi-heure pour trouver où c'était, donc, parce qu'on a pas mal de... Et quand on regarde ça, notre site, et tous les sites, sont un peu attaqués, quoi. Donc on avait des gens, la première fois où j'ai activé ça, la première nuit, après j'ai dû mettre un filtrage sur Thunderbird, parce qu'il y en avait tellement, j'avais 20 attaques, quoi. 20 tentatives d'intrusion par nuit, quoi. Donc 40 par jour, quoi. Maintenant, ça s'est calmé. J'en ai plus qu'une par jour. Voilà. Donc on a remis d'équerre ce site-là, ouais. Pour avoir une meilleure
d'accord.
Visibilité.
Du coup, pourquoi vous êtes passé de Ubuntu à Debian ?
Alors ça, on l'a expliqué, mais bon, on a une vidéo qui explique ça sur notre... sur nos vidéos, sur notre site. On a fait ça avec un ami aussi qui aide le collectif, qui est un blogueur qui s'appelle Amaury de Blabla Linux. On a basculé en fait pour deux raisons. La première raison, c'est que j'avais eu une annonce comme quoi Ubuntu allait arrêter sa version 32 bits. Mais je l'ai lu il y a 4 ans. Et c'est vrai qu'il l'avait annoncé. Et donc à ce moment-là, on était en discussion avec... un autre blogueur qui nous a mis en relation avec Arpinux en disant ça serait cool qu'Emabuntu, c'est Arpinux, c'est le développeur du projet Andy Linux, après il a fait DF Linux, que vous passiez à Debian et tout. On avait dit bah ouais, pourquoi pas, moi j'avais vu que Ubuntu allait arrêter, donc on est parti sur la version Debian. Et puis il y avait un autre souci sur Ubuntu, c'est qu'ils changeaient sur leur version LTS, ils changeaient régulièrement de noyau. Dire qu'on commence avec un noyau 3.12, après on arrive avec un noyau 3.16, après un 3.18, machin, ça changeait. En principe, une LTS, le noyau doit pas changer, quoi. Donc pourquoi ça me gênait? Parce que ben, quand on avait installé avec des périphériques, on savait que ça fonctionnait sur une version des Mabuntu. La suivante, c'est plus le même noyau, et forcément il y avait des périphériques sur lesquels ça fonctionnait plus, d'autres qui fonctionnaient. Tout ça, donc c'était difficile à gérer, quoi.
Donc, avec ces trucs-là. Est-ce que je comprends, oui. Pas, je comprends pas très bien. Déjà, Ubuntu, ils ont pas abandonné le 32 bits. Hein.
Alors, je termine. Donc, Ubuntu avait annoncé ça pour la version 2018. Donc, ils avaient annoncé ça vers 2015. Ils avaient annoncé qu'ils allaient abandonner le 32 bits. Il y a eu une levée de bouclier. D'accord, il y avait une levée de bouclier et ils ont décidé de le prolonger. Donc ils ont prolongé le 32 bits jusqu'à la version 18.04 sur la Ubuntu standard. Et après ils ont arrêté le 32 bits. Là ils viennent d'arrêter toutes les versions 32 bits. Même l'Ubuntu sont en 64 bits d'origine. Et donc nous on a commencé en avance de phase, et après on s'est trouvé avec une version Debian qui s'appelait Emabuntu DE, et une version qu'on avait à l'époque, c'était notre Emabuntu 3 qui était en Ubuntu 14.04, qui était en concurrence. Donc on a différents choix. On a dit, ben on va pas. Moi j'ai dit, je vais pas développer deux versions. Puis même si je développe deux versions, quel public cibler? Je savais pas dire plus l'une ou l'autre. Donc on a arrêté le développement Ubuntu. Et donc on s'est focalisé sur Debian. Voilà. Voilà l'histoire.
Ok, c'est, mais moi, il me semble que Ubuntu, ils n'ont pas arrêté le 32 bits. Sur la 20, il y a toujours le 32 bits. Puisqu'il y a Valve qui a gueulé, là, parce que leur machin de jeu vidéo, là, ça marche avec un machin 32 bits.
Steam.
Ouais, Steam.
Steam
ouais.
Est en 64 bits, pour moi.
Ouais, mais il y a les trucs, les émulateurs jeux vidéo, c'est un truc 32 bits, c'est tout basé
ah
là-dessus,
oui,
là,
Wine,
leur machin.
Sur Wine. Wine
est en 32 bits. Tu confonds, Morgan.
Non, je suis sûr de ça, je suis absolument
non,
sûr de ça.
Non, c'est les librairies 32. Mais le 32 bits en tant que support classique.
Ils veulent même arrêter le support aux gens qui sont en version 32 bits. Dixit Linux Format qui a dit ça dans sa revue. Ubuntu veut même arrêter le support des versions 32 bits qu'ils ont livrées.
Mais attends, tu dis c'est quoi? C'est une librairie qui s'appelle lib32 que Steam se base dessus et moi je confonds avec
les
32 bits.
Non, c'est par rapport à leur librairie qui était en 32.
Ouais, c'est ça.
Oui. Mais pas le. Pas, c'est pas Ubuntu directement et.
Oui, mais Steam, ils utilisent à fond Wine pour émuler les jeux, pour qu'ils apportent beaucoup de jeux sur Linux.
C'est trop tôt.
Peut-être plus maintenant. Mais.
Ils avaient arrêté.
J'ai téléchargé la Lubuntu le week-end dernier pour comparer sur la version LXQT. Et par rapport à notre version LXQT qu'on livre à l'heure actuelle, et je te confirme que la Lubuntu 20.04, il n'y a plus de version 32 bits.
D'accord, je ne suis pas du tout à jour, non, mais.
C'est pas grave. Alors je termine là-dessus, pourquoi on voulait le 32 bits hein? Pourquoi on essaye de garder le 32 bits? En fait, on essaye de garder le 32 bits pas pour tourner sur des machines 32 bits comme les gens pourraient croire, mais en fait pour une consommation mémoire. Donc en fait dans les versions 32 bits, la consommation mémoire est plus faible que sur les versions 64 bits. Donc quand on a du dual core et qu'on reconditionne par exemple pour les projets comme le Togo, on met nos versions 32 bits parce qu'elles nous permettent de livrer des ordinateurs avec seulement 1 giga de RAM. Alors pourquoi on fait ça? Ben parce que des fois on a envoyé des ordinateurs qu'avec 1 giga de RAM. Des fois, on a deux, mais souvent, les gens au début donnaient moins. Maintenant, ça commence à changer, on a des bécanes avec 4 gigas, mais on avait des difficultés. Donc c'est pour ça qu'on utilisait le 32 bits pour réduire la consommation RAM au démarrage du système. Et donc d'avoir une machine qui ne rame pas trop. Voilà.
Mais donc, à un moment... Okay. En tout cas, ce que je voulais dire, le deuxième point là, c'est Ubuntu, il me semble, sur une LTS. Ils gardent le même noyau, ils sont basés sur un noyau Linux, et ils prennent que les mineurs et ils backportent peut-être des fois des trucs, mais
Je t'assure, sur la 14.04, il y a eu des changements de noyau.
Alors, il va avoir le dernier mot, t'inquiète pas.
Non, mais il semblait qu'au bout de... Non, mais justement, c'est intéressant d'en parler avec quelqu'un qui
changeait de. Il changeait de noyau. Sauf si tu prenais la version qui gardait le même noyau, sauf si tu prenais la mise à jour 14.04.1. Mais moi, j'avais pris des 14.04.2 et il y avait des changements de noyau. Alors, quand j'ai fait ma dernière version, je suis reparti sur une base 14.04.1.
Franchement, ça craint de leur part, hein, de faire ça.
Ben oui, mais c'était parce que c'était avec un truc qui était activé par défaut, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait un système qui était activé par défaut dans la distro qui avait ces changements de noyau. Si tu voulais, il fallait le désactiver. Donc il y a eu ces changements, il y a des gens qui s'en sont rendu compte, mais moi quand je m'en suis rendu compte, j'en avais déjà livré deux versions, quoi, deux mises à jour. Donc c'était trop tard, on avait des versions dans la nature. Voilà. Ouais.
C'était
mais avant, ils le faisaient pas. Voilà.
D'accord.
Mais si on va essayer juste, je vous coupe un petit peu, on va essayer de terminer d'ici 10-15 minutes, comme ça, parce que là, ça fait déjà beaucoup de temps, mais, parce qu'on pourrait faire deux émissions. Non, c'est surtout que ça risque d'être assez indigeste pour les auditeurs sur la longue durée, donc c'est pour ça que je veux juste couper un petit peu. Donc, je vous laisse faire deux, trois dernières questions et on conclura, d'ici 10-15 minutes, d'accord?
Ok.
Ouais. Bon, j'ai une question. C'est genre quand vous avez pénétré le marché, de l'éducation, Est-ce que vous n'avez pas eu des résistances avec les formats Microsoft? Genre les trucs police de caractère payante, je sais pas quoi, là, pour ouvrir les documents.
Là, je suppose que tu parles pour le Togo.
Ouais.
Bah non, parce que au Togo, ils ont rien, donc ils n'ont pas de comparaison. Ici, on a des comparaisons par rapport à, si tu veux, par rapport à Windows, tout ça. Beaucoup de gens ont utilisé Windows, tout le monde, beaucoup de Linuxiens viennent du monde de Windows parce qu'ils ont commencé avant, ça n'existait pas Linux, hein. Moi, je suis pas si jeune que ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé avec Windows, Linux, ça n'existait pas. Mais là-bas, ils n'ont pas de connaissances de système avant. Donc ils n'ont pas cette référence. Donc il n'y a que les
D'accord.
formateurs qui connaissent. Donc tu leur
OK.
présentes un ordinateur, pour eux, les enfants qui voient ces ordinateurs-là, c'est un ordinateur, ils découvriront après qu'il y avait Windows, mais ils savent même pas la portée, ils ne savent même pas forcément la portée du logiciel libre. Nos amis qui travaillent là-bas, eux savent, mais pas forcément les enfants. Voilà.
Okay. Parce que ma question, c'était parce que nous, dans les assos, les install parties, par exemple, on choisit Linux Mint, enfin, ce qu'on installe, c'est Linux Mint, parce que bah, Windows, ça laisse des traces, et donc, il faut qu'il y ait le menu démarrer en bas à gauche, enfin, tu vois, qu'il y ait des trucs,
Oui,
quoi.
avec
Parce que les gens,
l'interface
XP, ça a
Cinnamon.
laissé des traces dans la tête des gens, et voilà.
Cinnamon.
Ouais, voilà.
Oui. Ben moi, quand j'ai développé ma Ubuntu, en fait, j'ai fait comme Claude, j'ai un peu opportuniste, quoi. Je connaissais Ubuntu, je suis parti sur Ubuntu, j'ai pas regardé d'autres distributions, hein. Moi, j'étais focalisé, j'ai fait mon truc. Elle me convenait, j'ai pas regardé. Donc je connaissais pas Linux Mint. C'est après quand j'ai commencé à diffuser le Emabuntu, qu'il y a des gens qui me comparaient, qui m'ont dit, ah ouais, tu ressembles à Linux Mint. J'ai dit, c'est quoi? Donc j'ai regardé, hein. Moi, j'ai découvert ça à l'époque. J'avais pas forcément Internet comme maintenant. Donc on achetait des revues. Donc il y avait pas toutes ces distributions-là. Et donc Debian aussi, je connaissais pas non plus. Donc après, je me suis formé. Et j'ai vu que oui, effectivement, il y avait d'autres versions, que peut-être j'aurais peut-être pas dû partir sur une base Ubuntu au départ. Voilà. Et par contre, j'ai mis le doc, et les utilisateurs, les débutants, apprécient ça. Moi, je me suis basé sur ce qui était fait sur Mac, hein. Donc, j'ai jamais eu de Mac, mais je connais un petit peu aussi. Les utilisateurs apprécient parce qu'ils n'ont pas à chercher. Alors, par contre, on a gardé les menus d'origine. Il y a des gens qui nous disent c'est bizarre et tout. On a laissé le menu Whisker de XFCE, ou le nouveau menu de LXQT maintenant. On les laisse. Si les utilisateurs ne veulent pas le doc, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité pour avoir plus de visibilité. Donc, on a la possibilité de ne pas mettre le doc. Quand on l'a pas mis, si on veut le mettre, on peut le mettre. On a des petits scripts qui font ça. Parce qu'il y avait
D'accord.
toujours un truc qui allait pas pour un utilisateur. Donc on a mis tout, hein. Fromage et dessert. Donc les mecs, ils ont tout, voilà. En gros.
Et du coup, tu as préféré. En fait, le premier truc, nous, on se fait pas chier, on fait un Linux Mint, enfin, plus un script de post-install, qui installe tous les trucs, tous les
Oui, bien
machins qu'ils
sûr,
peuvent
bien
avoir
sûr,
dedans.
bien
Et
sûr.
en fait, t'es parti, t'as fait ta propre distribution parce que tu voulais plus te faire chier avec un post-install, tu snapshot ton ISO et bim.
Tout à fait, tout à fait. Et puis on
Ok.
voulait, le fait d'avoir fait notre distribution, ça te permet d'apprendre, et ça te permet après d'avancer, comme dit Claude, et de trouver des solutions, et d'être aussi performant, voire plus performant que d'autres. À chaque fois que tu as une difficulté, tu te rends compte que si tu arrives à la surmonter, tu en ressors plus fort. Et c'est ce qui s'est passé avec Emabuntu. Donc au départ, on faisait des installations avec DVD. Comment dirais-je, je mettais plutôt 6 heures pour reconditionner un PC. Après, on a fait l'ISO. Les DVD, je voyais qu'ils fonctionnaient pas longtemps. Je suis passé sur QSB, j'ai rencontré François, le développeur de Multisystem, qui est une super application pour installer des clés USB. Donc on est passé à 30 minutes à peu près. Après, quand on est donc là, on faisait 2-3 PC dans l'après-midi, on était content. Après, on a eu beaucoup de dons d'ordinateurs. Les ordinateurs, par exemple, qu'on a donnés à Claude, on s'est rendu compte que quand on en avait 100 reconditionnés, ça prenait mais des semaines. Donc on s'est dit, tiens, il faut qu'on aille plus vite. Donc il y avait un ami qui, Hervé, qui m'a parlé de CloneZilla. On avait des reconditionneurs qui n'arrivaient pas avec CloneZilla, tous ces menus et tout. C'était un peu prise de tête. Donc on a instrumenté ce truc-là. Et donc maintenant, on est à 5 minutes d'installation, juste le clone, avec une version customiser des Mammouthus, plus 15 minutes de pour le Wikipédia. Donc on fait tout en 30 minutes. Ce qui nous permet de faire avec Claude, il le sait, quand on fait des fois des séances, on fait 30 PC dans une journée.
Ok. Je vais passer à la prochaine question qui va être la dernière, pour conclure. Comment tu gères un parc informatique comme ça? Donc déjà, tu as des PC un peu partout au Togo, que tu as livré dans une Emabuntus DE4 et que tu dois migrer en DE5. Je suppose que c'est à base de problèmes pour avoir internet, pour pouvoir télécharger les trucs. Comment tu fais pour gérer ton...
La même chose qu'en France. Et Mabuntus, on livre pour l'instant, on fait en version monobloc. C'est-à-dire que quand même, là, on n'est pas encore sur la DE4. La DE4, elle est juste en alpha. Je déconseille aux gens qui sont débutants de l'utiliser parce qu'ils auront des mises à jour tous les jours. Hein. Donc, et ça pendant un an. Donc, je préfère prévenir. Hein. C'est une alpha, elle est basée sur une Debian 11, alpha 2 de Debian. Donc, ils travaillent. Ils feront le freeze dans mars prochain. Donc, bon. Donc, c'était juste pour. On a fait ça en fait, j'ai fait ça parce que j'étais en confinement comme beaucoup de gens et je me suis dit tiens, j'ai 2 semaines en confinement, ben je vais commencer une nouvelle version. Et puis ça a tellement bien marché qu'on l'a sorti au bout d'un mois. On pensait pas, je pensais qu'on la sortirait pas avant octobre et ça a tellement bien marché qu'on l'a sorti. On a dit ben, elle est finie, hop, on la sort en alpha et on fera les mises à jour régulièrement jusqu'à la sortie en juin 2021. Mais sinon, toutes nos versions sont monobloc, d'accord. Et donc, on passe pas d'une version à l'autre. On n'est pas comme les distributions nous le reprochent, rolling, release, tous ces trucs-là. On n'a pas cette technologie-là. Moi, je suis pas chaud pour la mettre parce que qui dit ça, ça veut dire que nous, il faudrait qu'on mette en place un dépôt. Et moi, j'aimerais bien avoir des personnes pour gérer le dépôt et pour tester quand on va déposer sur le dépôt comment ça se passe au niveau du déploiement. À l'heure actuelle, on a des difficultés dans notre collectif pour avoir des testeurs. Là, par exemple, on a testé, on a dû aller sur le site Linux.fr en mars pour solliciter des testeurs pour tester la future Emabuntus DE4 parce qu'on n'avait pas assez de testeurs. Nos testeurs, ils étaient un peu soit confinés, soit ils en avaient marre de tester toujours les Emabuntus. Ça fait 3 ans qu'ils testent, donc ils étaient un peu à la casquette, ils en voulaient plus. Donc on est allé chercher des testeurs, on a eu des nouveaux testeurs qui nous ont aidés à progresser techniquement sur des améliorations. Donc voilà, donc pour l'instant, donc c'est installation from scratch. Et quand on sort des mises à jour, pour passer d'une mise à jour à l'autre, si on veut avoir les améliorations qu'on a faites, il faut faire une installation. Sinon, on n'aura que les mises à jour standard de Debian. Mais si par exemple je rajoute dans la prochaine que l'on va sortir dans 15 jours, on va rajouter LXQT dans les Mabuntus DE3 plus Falcon, un nouveau navigateur plus léger pour justement être sous LXQT. Si on veut ça dans une Mabuntus DE3, la seule solution c'est de la réinstaller. On n'a pas mis en place le dépôt qui permettra de faire ça. Voilà. J'ai répondu à ta question.
Tout à fait.
Voilà. Mais c'est sûr, ça serait un axe d'amélioration, mais il faut être plusieurs, parce que si par exemple tu mets un script sur un dépôt, déjà je sais pas gérer les dépôts, mais ça se trouve ça. Si tu mets un script sur un dépôt et ce script là, il y a un bug, quand c'est parti dans la nature, ben toutes les versions qui sont en face, elles sont buggées. Hein. Donc il faut le tester avant, donc il faut que des gens se connectent à un dépôt intermédiaire, testent avant, et ça on n'a pas assez de testeurs pour faire ça. Donc déjà pour sortir une version où on a des releases, on n'a pas assez de testeurs, je peux vous envoyer le site sur lequel on teste à l'heure actuelle, c'est un Framapad, quand vous voyez les commentaires, il n'y a pas assez de monde, quoi. Il n'y a pas assez de tests. Et moi je ne peux pas tester tous les logiciels à chaque fois, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc c'est pour ça qu'on ne sortira pas cette version-là tant qu'on n'a pas les personnes. Parce qu'après, si on a une anomalie, les gens se souviennent plus des remarques négatives que des remarques positives.
Et côté testeur, c'est quoi? C'est t'installes ça sur ton PC et tu vérifies que ça lit une vidéo ou il y a d'autres trucs à faire?
Ben, il n'y a aucune directive sur nos testeurs. Parce qu'il y en a qui me disent, tu fais pas un plan de test et tout ça. Non, je dis... Je vais pas vous faire un plan de test parce que je ferais un plan de test, il serait trop énorme, quoi. Oui, il faut démarrer l'ISO, il faut la tester en live, il faut la tester sur VirtualBox, sur VMware, il faudrait la tester en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues. Donc on ne teste pas toutes les langues pour voir s'il n'y a pas d'erreur, tu vois. Donc voilà, oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Donc la tester pour voir s'il n'y a pas de bug. Donc s'il n'y a pas une régression. Mais ça prend beaucoup de temps. Même si l'installation n'est pas longue, voilà. Ça
prend beaucoup de temps.
Quand on sort une version, ce qu'il faut savoir, c'est les trois premiers. Quand tu sors une version, c'est les trois premiers jours où il y a les téléchargements. Quand on a une annonce, on a la chance que DistroWatch, en général, passe nos annonces. Donc ça va, donc on a un peu de visibilité. C'est les trois premiers jours. Tu fais 5-6 000 téléchargements à l'heure actuelle. Avant, on faisait des téléchargements, les sorties ont été à 17 000 les trois jours, quoi. Maintenant, on a beaucoup baissé. Il y a beaucoup moins de monde qui sont intéressés, ou pour le libre, ou pour Emabuntu, je sais pas. Voilà, donc le gros des téléchargements se fait en 3 jours. Si tu as une erreur, l'erreur, elle est partie, hein. Tu ne la rattrapes plus, hein. Donc il faut être très vigilant à ça. Et nous, pour faire un cycle de test validation correctif, il nous faut une semaine. Hein. Une semaine pour qu'il y ait des gens qui testent, pour avoir un certain vernis en disant bon, on a fait quelques tests, mais on n'a pas assez de testeurs. On va finir comme Windows qui a envoyé des distributions et qui ont planté je sais pas combien de systèmes avec des données personnelles, quoi, où il y avait une mise à jour qui a effacé des données personnelles des utilisateurs. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça.
Ça n'arrive jamais, c'est de l'asphyxie.
Si, c'est arrivé. Mais ça arrivera dans le logiciel libre. Si les équipes ne sont pas assez importantes pour tester, quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Hein. Donc voilà, et nous on n'est pas capable de réagir. Moi déjà pour envoyer une version, il me faut 10 heures. Hein, pour la mettre sur le serveur. J'ai pas une bonne connexion ADSL, donc il me faut 10 heures.
Donc, Cam, pour envoyer tu voulais pas versions, travailler ton espagnol?
Comment?
Non, pardon. Tu disais Morgan il voulait travailler son espagnol pour être bêta.
T'inquiète, je travaille à la maison l'espagnol.
Eh ben tu peux travailler avec Ubuntu.
Mais là, on n'a pas beaucoup de. On, sur les traductions, on va pas trop s'étendre parce que je pense que ça demande beaucoup de travail. Et après, par exemple, quand on fait une annonce en espagnol, si on n'a pas un blog, un site sur lequel le poster, ça ne sert pas à grand chose. C'est beaucoup de travail pour avoir 10 vues, tu sais. Quand tu vois nos vidéos, on a Arpinux qui nous a fait une super vidéo. Quand tu vois le nombre de vues de vidéos, il a passé beaucoup de temps pour faire une vidéo et tu te dis waouh, si peu de vues. Ça fait mal au cœur.
Après, les vues, il y a toujours moyen, surtout dans la communauté du livre, les gens la regardent sur d'autres plateformes qui haussent, donc il n'est pas. Le nombre de vues n'est pas effectif.
Je sais pas.
Et non, je parlais pour l'installation en elle-même.
Oui. Bah oui, oui, tout à fait. Moi, je teste pas l'espagnol. Hein.
Donc, peut tester.
Ah mais bien sûr, il peut y avoir des bugs en espagnol. On peut avoir par exemple une traduction qui est dans un fichier qui soit pas bonne et que l'interface se crache.
Après, donc, si c'est Morgane qui fait la traduction, ça va être tous les trucs à double sens et ça peut être vicieux. Donc je préfère ne le mets pas dans la boucle des traductions.
Non mais les traductions déjà c'est du Google Translate en espagnol. On n'a plus de traducteur. Donc j'ai vu des fois, on a eu quelques vidéos par des personnes qui parlent espagnol, j'ai vu dans leurs vidéos, j'ai regardé et ils disaient oh les traductions c'est un peu folklore. Ça me surprend pas. Bah ouais.
Ouais mais faut savoir le problème avec l'espagnol c'est que t'as pas un espagnol, t'en as un par pays. Ils parlent pas tous les mêmes mots, ils disent pas les mêmes trucs.
D'accord. Ouais. C'est fort possible.
Certains mots polis à d'autres endroits du globe peut-être. Toute chose.
Exactement. Par exemple, là où en Colombie, tu dis commander, et genre en Argentine, ça veut dire niquer. Okay. Genre, il y a des trucs culturels, les Argentins, ils vont. Enfin bref.
Okay. Ceci explique cela. Bon, moi j'ai une toute. Est-ce que vous avez une dernière question, messieurs, avant que j'en pose une toute dernière à Patrick et Claude?
Non.
D'accord. Bon.
Moi oui.
Oui, vas-y, John.
Allez, John.
Alors sur Emabuntu, vous êtes combien à peu près en développeur? C'est la première partie de la question. Et la deuxième, c'est je donne une baguette magique avec possibilité d'avoir sur commande tout corps de métier, de quoi, qu'est-ce que vous prenez en premier? De quoi vous avez besoin?
D'accord. Alors, en termes de développeur, c'est essentiellement moi qui développe. J'ai pas trop d'appui technique, j'ai des conseillers techniques qui peuvent m'aider sur quelques points. On est sur Framagit au niveau de notre plateforme de développement. On a une dizaine de personnes sur chaque Framagit, tout le monde peut venir. C'est libre. Par contre, ils sont verrouillés en mode privé, donc pour pas que les gens voient ce que nous faisons, et surtout pour pas venir nous pourrir la vie en mettant des commentaires où je suis obligé de justifier nos choix, d'accord. Donc, mais les gens peuvent venir. Donc à l'heure actuelle, je suis tout seul, donc il y a des gens qui me donnent des conseils, qui m'aident sur des choix, voilà. Après, on a notre coordination où il y a d'autres personnes, donc Claude en fait partie. Ça, c'est sur des choix plus stratégiques, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire tel partenariat, voilà, tel changement de fonte, des trucs qui touchent plus au côté visuel des Mabuntus. Tel financement, telle aide, voilà. Donc ça. Et après, donc on a tout un collectif, des gens dans lesquels il y a des testeurs qui peuvent être aussi sur le Framagit, mais il n'y en a pas trop, ils viennent pas trop, ils veulent pas, pourtant je les sollicite, qui répondent à nos phases de test. On fait un Framapad pour chaque version et on teste on fait les retours sur le Framapad. Donc voilà. Après, ce dont on a besoin, c'est difficile à dire, parce que dans Mabuntus on a deux parties, quoi. La partie qui m'intéresse le plus, bon, il y a la distribution, c'est intéressant, mais c'est surtout l'aide au projet pour les aider, pour leur donner des techniques de reconditionnement. C'est pour ça que j'ai fait Mabuntus. C'est ce côté-là qui m'intéresse le plus, avec le plus d'échanges avec les gens, plus que de développer une distribution Linux, quoi. Voilà. Donc on aurait besoin de personnes qui aident d'autres personnes sur leur propre projet, voilà. Qui aient des envies d'aider, pas forcément avec Mabuntus, mais avec le logiciel libre, pour promouvoir le logiciel libre dans d'autres structures, au lieu d'utiliser des structures qui sont fermées, qui appartiennent à d'autres pays qui nous maîtrisent complètement, quoi, voilà. Sans vouloir faire l'anticapitaliste primaire dont on m'a parfois traité, voilà, il y a d'autres pays qui nous donnent leur technologie et donc dont on ne maîtrise pas, et un jour on aura peut-être un souci vis-à-vis de ça.
Oh oui.
Voilà. J'avais fait un article un peu critiqué dans notre collectif, on avait discuté sur l'UEFI et les menaces de l'UEFI, donc voilà, donc effectivement l'UEFI peut être l'UEFI avec le Secure Boot peut être un cheval de Troie déjà en place. Et il y a d'autres techniques, là ça date déjà de 5-6 ans, il y a d'autres techniques qui sont en place pour verrouiller l'information et les sites.
Mais on retrouve même des fois des bugs qui permettent de déverrouiller n'importe quel PC et tout ça.
Bien sûr. Voilà.
Donc ok, même ok.
Même Linux Torvald, j'ai appris une fois qu'on l'avait sollicité, d'accord, il a soi-disant refusé, mais qu'on l'avait sollicité pour mettre des trucs dans le noyau Linux. On l'avait sollicité fortement.
Oui, ça remonte à quelques temps, oui, c'est vrai qu'il en avait parlé. Dernière petite question. Parce que je crois que Morgan voulait en parler, mais il a peut-être pas osé. Il y avait d'autres projets, je crois, des Mabuntus, un peu à l'international, si je me trompe pas.
Alors, c'est des projets des Mabuntus, c'est des partenariats ou des collaborations comme on fait avec Yovo Togo et Jump, d'accord? Donc à qui, comme c'est les meilleurs projets, c'est à eux qu'on fournit une partie de nos revenus, c'est-à-dire que l'argent collecté via l'ILO, on a décidé pendant notre coordination de le donner à 100%. Donc nous, on reçoit même pas l'argent, il est directement versé à Yovo Togo qui redistribue. Au départ, ça va être versé à toutes les assos, mais l'ILO n'arrive pas à envoyer à tout le monde, donc c'est Yovo Togo qui redistribue. Donc on donne à Yovo Togo pour un tiers à Jump et un tiers à un GUL qui s'appelle Montpel Libre, qui fait la promotion justement de Linux au sein de la communauté Emmaüs de Montpellier-Saint-Aunès, voilà. Et après on travaille avec d'autres structures qui nous sollicitent. À l'heure actuelle on est dans une phase depuis toujours où on attend que des structures nous sollicitent et on leur donne notre support technique. Donc tout à l'heure Claude parlait de Patrick, bon, je suis pas le seul, il y a d'autres personnes dans le collectif qui peuvent aider, mais effectivement c'est souvent moi qui suis en devant, mais il y a d'autres personnes comme Hervé, David, qui peuvent aider techniquement, et donc on essaye de former ces associations sur leurs projets en utilisant bien sûr 100% Linux. On les incite, on leur présente Emabuntu au départ. Après, ils sont pas obligés d'utiliser Emabuntu, on préfère, mais bon, ils peuvent. Après, on peut leur donner la technique qu'on a mise au point, ils peuvent la développer s'ils veulent avec leur propre Linux, mais c'est pas moi qui leur ferai les clones, quoi. Si on me demande de faire un clone sur une base, par exemple, Linux Mint, je leur dirais, je vous explique et vous le faites, mais on va pas le faire. Voilà, mais on peut leur donner la technique de connaître des associations. À l'heure actuelle, on a un autre gros projet qui démarre. Il a démarré l'an dernier avec une association franco-sénégalaise qui s'appelle EducAccess, qui est basée en région parisienne. Donc je les ai rencontrés. Et donc ils sont en train d'acheminer avec un projet de 5 salles informatiques dans la ville de Thiès au Sénégal. Donc voilà, il y en a déjà 35 qui sont partis là, il y a 2 semaines. Donc pour l'instant, c'est pas encore installé. Ils ont été un peu bloqués par la crise du Covid-19, mais ça suit son cours. On va voir s'ils font aussi bien que Yovo Togo, malgré que la barre soit très haut. Après, on a d'autres associations qui eux-mêmes ont reconditionné eux-mêmes avec des GUL locaux, comme Ailleurs Solidaire, qui a envoyé des ordinateurs il y a 3 ans. C'était plutôt des portables pour des problématiques de transport à Katmandou. Et puis on collabore avec le projet Jerry Do It Together, c'est ce projet qui nous a fait connaître en Afrique de l'Ouest, donc on collabore avec des Fab Labs, des équipes du logiciel libre au Sénégal, au Bénin, où on est utilisé par le Blolab dans leur camion mobile sur des PC portables, et aussi par tous les Jerry Clans de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on est utilisé dans d'autres pays. Mais ce sont des projets locaux où on aide les gens ponctuellement. Voilà. Donc s'il y a des associations qui veulent mettre en place du reconditionnement, on leur expliquera comment faire, et puis après on leur dira, ben voilà, on vous explique, et après c'est à vous de faire, c'est-à-dire de trouver les ordinateurs, de les reconditionner, de les envoyer. Nous on s'occupe pas de l'envoi au niveau du collectif Emabuntu. On peut vous aider à trouver les ordinateurs, mais on préfère que ça soit vous. Ponctuellement, si on en a, on vous explique qu'on vous les donne. Et après, on explique aux gens comment faire, quoi. Claude y est arrivé, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent y arriver. C'est pas très très compliqué. Il faut s'y mettre un petit peu, quoi. Après, on est là pour les cas difficiles, on va dire. Voilà. Et nous, on n'a pas de projet en soi. Après, on a des membres du collectif qui reconditionnent. On a Robert qui lui reconditionne des écoles primaires et maternelles en région parisienne. C'est-à-dire tous les ordinateurs que l'on nous donne qui rentrent pas dans la catégorie, on va dire, qu'ils donnent au collectif Emabuntu de la région parisienne, parce qu'on va pas chercher les ordinateurs très loin quand même, pas faire des kilomètres. On les dote dans des écoles maternelles en région Île-de-France, quoi, qui les ordinateurs qui sont dépareillés, ou si l'ordinateur casse, ben Robert il en prend un autre, il va le changer, quoi. Il n'est pas au Togo, il faut faire 7500 km pour aller le changer, quoi. Donc voilà, on va dire les deuxièmes mains, on les donne dans les structures plus proches de nous. À l'heure actuelle, c'est plutôt des écoles maternelles. Bon là, on a fini nos stocks avec le Covid, on a aidé une communauté Emmaüs qui nous a hébergés pendant pas mal de temps à Paris. Donc Emmaüs Solidarité, on leur a fourni des ordinateurs qui nous restaient en stock pour la crise du Covid, où il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas équipés et qui avaient des difficultés à suivre leurs cours. Il y a eu pas mal de demandes à ce niveau-là, mais on n'a pas pu tout fournir. Voilà. Donc on aide encore les communautés Emmaüs qui nous sollicitent. On est sûrement plus utilisé que l'on pense dans les communautés Emmaüs, mais comme on n'a pas de retour avec les gens, moi je peux pas passer mon temps à poser des questions, à faire le tour de France de toutes les communautés pour savoir où nous sommes utilisés, vu qu'il y en a 113. D'accord.
Donc j'en ai fait quelques-unes. Ça fera un peu beaucoup, ouais.
J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait un peu du marchand de commerce dans quelques-unes au tout début où j'ai commencé Emabuntu, et maintenant je le fais plus. Mais par contre, s'il y a des communautés qui sont intéressées, on peut les aider. Voilà.
Avec d'accord.
De référence sur place, par échange par mail, on peut fournir le clone à distance, on peut faire la clé à distance, tout en télétravail. Voilà, on peut quasiment tout faire en télétravail. Il faut avoir une connexion Internet.
D'accord. Bah écoute, voilà. Ça, je pense que c'était une belle manière de conclure les... cet échange, parce qu'on a quand même dépassé les 2h30. Hein. Je pense qu'il y a facilement 2h30 d'exploitable d'enregistrement. Donc, bon, en tout cas,
Couper un peu.
Ouais, il faudra couper un petit peu. Ouais, ouais, tout à fait. Il y aura 2-3 petites coupes à faire, mais ça va faire un bon 2h30.
Surtout celle de Claude.
C'est cela.
Ça fait 3/4 d'heure qu'on l'entend plus, malheureux.
Non, mais j'ai écouté, j'ai bu 4 bières, je suis à moitié bardé, mais j'ai écouté.
Ouais. Bon, j'ai pas fini mon verre, hein, à force.
Ah, voilà.
Pour une fois.
Une dernière petite question avant de conclure. Où on peut vous contacter sur les réseaux sociaux ou les mails, tout ça?
Alors, tu vas à Claude ou j'y vais?
Bah, je vais déjà faire pour mon bout, là, sur le Framapad, là.
Oui. Et
je vous ai mis un lien du site Votogo.
D'accord.
Et en pied de page de la page d'accueil du site, t'as tout, hein, t'as mon adresse, numéro de téléphone, l'adresse mail, les mentions légales, tout ça.
D'accord.
Sinon, tu peux donner l'adresse sur internet, y a pas, sur audio, parce que moi j'avais dit il faut planquer
l'adresse. Bien sûr, on peut, je peux le faire. Hein. L'adresse postale, donc, c'est Association Yovo Togo, 1 rue des Ormeaux à Montsirègne dans le 85, hein, 85-110 exactement. Le téléphone 06 49 85 20 36. Le mail yovotogo.asso@lilo.org. Voilà.
D'accord.
Pour les coordonnées. Hein, évidemment, il va de soi que je profite de l'occasion pour faire un appel à soutien à tous les auditeurs qui ne manqueront pas d'écouter cette charmante interview. Hein. On est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général, donc tous ceux qui veulent nous donner un coup de pouce, soit par adhésion, par don ponctuel, voire même parrainage d'enfants, hein, j'insiste sur ce point qui est très porteur, donc on délivre des attestations fiscales, hein, en tant qu'association d'intérêt général. Et puis, comme l'a fait Patrick, moi je tiens aussi à l'antenne à remercier WebAssos, hein, qui s'est mis à notre disposition, qui aussi bien chez nous, Yovo Togo, que Patrick pour Emabuntu, a refait entièrement et gratuitement nos sites internet actuels, hein, qui n'ont rien à voir, pour ce qui concerne le mien, avec mon ancien site. Donc voilà, je voulais les citer, parce que c'est vraiment un geste bénévole vraiment très très sympathique. Voilà les amis.
Patrick, ne t'inquiète pas, voilà, on va laisser Patrick pour voir s'il a quelques réseaux ou autres, on peut le contacter.
Oui, alors déjà pour rebondir sur WebAssos, ce qu'il faut savoir, c'est une assos qui était très proche de nous aussi, on collabore avec eux sur des projets. Ils ont choisi Emabuntu comme ordinateur de base pour leur reconditionnement, mais mis à part ça, c'est une association très intéressante qui est complètement bénévole, un peu comme notre collectif, et qui aide les autres structures à mettre en place des sites internet. Donc nous, ils ont fait des trucs très bien, mais on a des versions de base, qu'on n'a pas des systèmes de mail derrière, des systèmes de chat, ils peuvent mettre en place tout ça pour des associations. C'est leur raison d'être, et c'est une grosse association qui se développe. Donc s'il y a des assos qui sont intéressés, prenez contact avec eux, voilà. webassos.org. Alors pour nous, notre site c'est emabuntu.org, donc j'appelle emabuntu parce que c'est pas forcément évident de trouver ou de l'écrire. Alors sur internet c'est E-2-M-A-B-U-N-T-U-S. Voilà. Et l'orthographe exacte, c'est un U tréma, le dernier U tréma sur les pages internet. Donc nous, pareil, pour nous contacter, si les gens veulent nous contacter. On a une page de contact, mais sinon c'est contact@emabuntu.org, tout simplement. Et après, nous sommes sur différents réseaux sociaux que j'essaye d'animer. Mais s'il y a quelqu'un qui veut m'aider à animer, je suis à la recherche de ça. Effectivement, tout à l'heure, j'ai oublié pour m'aider à animer, parce que je suis un peu fatigué d'animer les réseaux sociaux. Donc, j'y vais de moins en moins. Donc, on est sur, malheureusement, Facebook et Twitter. Et on a aussi deux autres réseaux sociaux libres, Framasphère et Framapiaf, voilà. Donc on essaye d'animer un petit peu. Maintenant je le fais beaucoup moins parce que c'est chronophage, voilà.
Ouais.
Donc j'anime aussi le forum. Donc s'il y a des gens qui veulent participer, on a Alain qui met sur le forum. Mais s'il y a des gens qui veulent nous aider sur le forum, ils sont les bienvenus, quoi. On n'a pas trop de questions sur le forum, donc on suppose que soit c'est pas utilisé, soit il n'y a pas de problème. On va supposer la deuxième hypothèse.
C'est s'il faut mieux se dire dans ces cas-là. Voilà, bah écoutez, ça va être le mot de la fin. Et en tout cas, un grand merci à Claude et Patrick d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on vous on
réinvite. Et d'être resté jusqu'au bout.
De nous avoir supportés.
Ça n'a pas été dur quand même.
Non,
en général, on est gentil, on ne ment pas.
C'est le bon côté des choses, de rencontrer des gens, c'est ça qui est intéressant.
Ouais,
quand on fait quelque chose, c'est de rencontrer des gens très intéressants et puis de discuter, quoi, voilà.
C'est vrai que là, franchement, c'est ce que on se disait, et Morgan et moi, après avoir fait le test micro hier, on s'est dit s'il y a une émission qu'il faudra retenir au cours de la saison, ça sera celle-ci, parce que c'est peut-être celle qui a le plus d'utilité, parce que voilà, il y a un vrai projet, il y a un vrai intérêt derrière. D'habitude, c'est des émissions où on parle de tout et rien, et de geekage, etc., et de nos projets à nous plus perso, et de promouvoir le logiciel libre. Là, il y a beaucoup d'intérêt derrière, que ce soit humanitaire, international, voire du local. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Donc, merci à vous d'avoir présenté ces projets. Et en tout cas, un grand merci. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à John et Morgan d'avoir co-animé, même si il y avait deux invités bavards et un animateur qui a un peu monopolisé la parole. Merci d'avoir été jusqu'au bout avec moi. Et on se dit à la prochaine. Et si tout va bien, mon petit doigt me dit que la prochaine émission sera encore avec des invités, mais ça sera un sujet un peu plus détente, un peu plus déconnade, même si les invités pourraient être tout aussi intéressants, mais avec des histoires un peu plus surprenantes à nous raconter, mais un peu plus historiques. Voilà, on vous souhaite une très bonne continuation et merci à tous. Salut.
Merci bye. À vous tous, bye bye.
Bye bye.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Face to face.
Aki beat.
Momo, easy.
Ah, Chichingagudu Shisha.
Yeah. This 2.0. Chichingagudu Shisha. Kudo Shisha. Chichingagudu Shisha. Tala you have it, never turn it. Chichingagudu Shisha. Kudo Shisha. Chichingagudu Shisha. Tala you have it, never turn it.
niquer ma mère. Donc attends, tu fais la queue. Je lui demande qu'est-ce que tu sais faire. Elle me dit tonton, je fais la queue. Et ouais, j'écarquille les yeux. On ne peut pas rêver mieux.
Hasta la vista, baby. T'es engagé, baby. Yeah.
Déjà 2 ans que je fais mes bails. Ça fait 2 ans qu'ils m'ont fait la place. Je vais vous tirer comme du Kitinga. Je vais vous croquer comme du chocolat. Oulala, oulala. Je vais vous manger comme du salada. Balaba, je suis ton papa.
Hein?
Tombola.
Mila Sonisona, Loto, Loto. Titinga, les Zozo, Zozo. Défiant le Koro, Koro. Aladi, les loups, Koro, Koro. Asagio, les mecs, Koro, Koro. Ah, moto, moto, hola, papa botore ya kome. Ella no kwame, hola dwi la pame, koza. Ezo me awadan. Titinga kudo shisha, kudo shisha. Titinga kudo shisha. Kale yue vire, ema twe vire. Titinga kudo shisha, kudo shisha. Titinga kudo shisha. Kale yue vire, ema twe vire.
Ezo me, ezo me. Ezo me, ezo me. Ezo me, ezo me.
Thank you.